Bonjour. On va commencer cette conférence. Donc, je vous remercie d'avoir répondu à l'appel pour la deuxième conférence du cycle Salon Double. Pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois ou qui ne connaissent pas le projet, je vais glisser quelques mots. Donc, Salon Double, c'est un observatoire de la littérature contemporaine qui publie exclusivement en ligne. Donc, sur le site internet salondouble.contemporain.info. C'est une publication à moitié étudiante, à moitié un peu en dehors, en fait, qui essaie de se situer à mi-chemin entre la critique académique, la critique journalistique, la critique essayistique, donc une espèce de nouvelle critique qui n'a pas encore vraiment de nom. On appelle ça des lectures ou des antichambres. Donc, on aime bien la métaphore filée du salon. Donc, on vous invite au Café Artissimo pour la série à Ottawa, justement, parce que, bon, l'ambiance conviviale d'un salon avec le divan, les banquettes rouges et tout ça, le café, les gâteaux. On a eu une première conférence lundi le 13 février de Patrick Imbert, qui est maintenant disponible en ligne sur notre site en balado diffusion. Donc si vous l'avez manqué, si vous voulez l'écouter, vous pouvez l'écouter en direct sur le site, la télécharger pour votre iPod, votre baladeur numérique et tout ça. La même chose sera faite de la conférence aujourd'hui, sera versée sur notre site d'ici une semaine ou deux maximum. Et on a, avant de présenter la conférencière d'aujourd'hui, je vous indique les autres événements qui vont se tenir à Ottawa. Donc on a deux autres conférences lundi le 19 mars, toujours à la même heure, à 17h, et encore au Café Artissimo. Ce sera Kazereka Kawairei de l'Université d'Ottawa qui viendra présenter une conférence qui s'appelle « Le roman francophone comme signe de l'histoire et résistance à l'histoire » ou « Comment le roman francophone ruse avec le réel historique ». Et lundi 2 avril, on va terminer cette première série à Ottawa avec Daniel Castillo-Durante, qui est ici présent aujourd'hui, qui va nous parler du silence obscène des miroirs, qui est aussi le nom de son dernier roman. Et aujourd'hui, la conférence sera présentée par Mme Lucie Joubert, qui est professeure, elle aussi, à l'Université d'Ottawa, au département de français. Ses champs d'intérêt concernent la théorie féministe, la littérature québécoise contemporaine, les romans français au féminin, les théories de l'humour et de l'ironie. Elle a fait paraître trois ouvrages, peut-être plus, mais enfin j'en ai noté trois qui sont peut-être qui sont les principaux. Donc en 98, Le carquois de velours, l'ironie au féminin dans la littérature québécoise de 60 à 80. En 2002, L'humour du sexe, le rire des filles. Et en 2010, L'envers du landau, regard extérieur sur la maternité et ses débordements. Les deux derniers sont parus chez Triptyque et le premier à l'Hexagone. Et la conférence d'aujourd'hui s'intitule « Les mélancomiques » ou « Pourquoi les femmes en littérature ne font pas souvent rire ». Donc, avant de lui céder la parole, on va lui installer le petit micro que j'ai entre les mains, justement, puisque ce sera diffusé sur le site Internet. Et je vous avertis tout de suite que on va enregistrer la période de questions aussi, mais comme on n'a pas un micro qui est facilement déplaçable, ben on vous demanderait de parler quand même assez fort pour les questions. Puis si jamais, vous avez un problème de gorge ou si jamais la timidité vous empêche de prendre la parole comme ça, ben Madame Joubert répétera la question au micro. Ou peut se promener, vous lui parlerez dans le corset. On va faire ça de façon très conviviale.
Bon, merci beaucoup tout le monde d'être là. Merci à l'équipe de Salon Double, Brigitte Fontier et Pierre-Luc. Je suis vraiment très contente de votre invitation. Et ne vous en faites pas pour l'épaisseur du document ici, c'est que j'ai écrit ça en 18 points pour ne pas être obligée de mettre mes lunettes. Coquetterie, alors c'est écrit en gros, 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 ça va vite. OK. Alors, donc, Benoît de Groulx a déjà écrit « La musique militaire est à la musique ce que la littérature des femmes est à la littérature ». C'est-à-dire une portion, somme toute, négligeable d'un ensemble, pour ne pas dire une sous-catégorie. Et il en va à peu près de même pour l'humour des femmes. Cet humour, qui est pourtant bien réel et bien vivant, je vais essayer de vous le prouver, est toujours considéré comme une verrue implantée sur l'humour tout court, mais qui est en fait l'humour masculin. En effet, combien de fois avons-nous entendu dire que les filles parlent seulement des affaires de filles, alors qu'on ne dit jamais des humoristes masculins qui parlent rien que des affaires de gars? Okay. Or, quand on compare les thèmes abordés, tous sexes confondus, on se rend compte qu'ils parlent des mêmes sujets, mais selon des perspectives différentes. Alors, pourquoi cette dévaluation systématique de l'humour des femmes et pourquoi cette résistance palpable, même de nos jours, et encore plus, pourquoi avons-nous encore le sentiment que les femmes sont moins drôles que les hommes? Je vais essayer d'esquisser des éléments de réponse en expliquant aujourd'hui la difficile accession des femmes à l'humour, en abordant l'écart qui sépare l'humour des femmes sur scène et l'humour plus strictement littéraire, et en mettant en relief un aspect moins connu du rire féminin, celui de la mélancolie. Alors, imaginez que vous êtes chez vous un samedi matin et que vous lisez l'entrefilet suivant dans la presse. C'est un article de 2009 que je n'ai pas censuré. Okay? Alors, l'article va comme suit. Comme les marmottes, les humoristes semblent se réveiller au printemps. Bon nombre d'entre eux montent en effet sur scène ces jours-ci. Le spectacle Mascotte numéro 5 est présenté jusqu'à vendredi à la salle André-Mathieu de Laval. Pour sa part, Rachid Badouri présente jusqu'au week-end prochain son spectacle « Arrête ton cinéma » qui continue de connaître un grand succès. D'autres prestations auront lieu à la mi-octobre. François Léveillé, François Messicotte, Laurent Paquin, Mike Ward, Guy Nantel, Jean-Claude Gélina, Dominique Paquet, Alexandre Barrette et Stéphane Poirier participeront par ailleurs au 9e gala L'humour aveugle au Théâtre Saint-Denis. Louis-José Houd a annoncé hier une nouvelle série supplémentaire à Montréal. Point. L'œil distrait constatera que l'humour se porte toujours bien au Québec. L'œil exercé, lui, remarquera que dans cette myriade de vedettes, les femmes brillent par leur absence. Le fait est qu'on peut encore compter les humoristes féminines au Québec presque sur les doigts d'une seule main. Presque. Alors, il y a Clémence Desrochers, la pionnière qui se fait rare. Ça nous laisse Lise Dion. Marie-Lise Pilote, qui a pris un détour vers Rona et la maison, etc., revient à la scène. Cathy Gauthier, Claudine Mercier, Nabila Ben-Youssef, Julie Caron, Doris Simon et Véronique Ducaire de justesse, parce que c'est une chanteuse recyclée en humoriste, en imitatrice. D'autres filles comme Isabelle Ménard, les Moquettes Coquettes, Geneviève Gagnon connaissent des succès plus épisodiques et souvent sur des scènes que j'appellerais confidentielles par rapport aux scènes officielles que sont le Théâtre Saint-Denis et les autres grandes places. Mais qu'est-ce qui fait qu'elles sont donc aussi peu nombreuses? Et la question va irriter les principales intéressées. Et c'est normal qu'elles soient fatiguées de répondre à cette question-là parce que vous remarquerez à chaque festival Juste pour rire, chaque année, il y a une question. On les regroupe ensemble et on leur dit « Comment se fait que vous êtes si peu nombreuses? » Et à chaque année, elles doivent répondre, elles doivent se justifier. Et j'ai moi-même posé cette question fatidique et fatigante à plusieurs d'entre elles pour nourrir mes propres hypothèses. Et il en ressort que, bon, il y a des raisons qu'on peut voir et d'autres raisons qui nous échappent parce qu'ils sont insoupçonnés vu qu'on n'a pas accès à tous les aspects de la vie d'humoriste. Il y a d'abord les enjeux que l'on nommera psychologiques. Traditionnellement, comme le mentionne Judith Sorasandor, non seulement la femme ne devait pas rire, mais elle ne devait pas faire rire non plus. C'est-à-dire attirer l'attention sciemment sur elle. Et Arlette Farge a étudié le rire des femmes au 18e siècle et elle dit ceci, c'est magnifique. Le rire, c'est aussi une béance de la bouche et ce geste, on le sait, c'est-à-dire la bouche ouverte, peut vite devenir une inconvenance. Cette dernière pèse surtout sur les femmes que leur cascade de rire, appelée péjorativement « gloussement », tire souvent vers une sorte d'animalité, voire une sexualité trop montrée. La bouche ouverte de la femme et son rire à pleine gorge sont reçus par les sociétés du 18e siècle comme des outrances qui rendent la femme trop femme, excessive dans son désir. Fin de citation. Alors, cela veut dire, mesdames, que quand nous rions, nous sommes cochonnes. C'est clair. Bon. Donc, prendre la parole et, à plus forte raison, utiliser cette parole pour faire rire la galerie, courir le risque d'être ridicule, tout cela rompt avec l'image figée, codifiée de la féminité. Et à ce lourd héritage psychologique s'ajoute le rapport ambigu que les femmes entretiennent avec le rire, que Platon définit comme une des grimaces de la laideur. Il n'est pas si loin, en effet, le temps où on croyait que les comiques féminines étaient nécessairement laides, parce que comme elles ne pouvaient pas séduire par leur beauté, elles choisissaient l'humour comme outil de séduction. On me rétorquera peut-être, comme on l'a déjà fait d'ailleurs, qu'on n'en est plus au « sois belle et tais-toi », que les jeunes filles s'assument, prennent la parole, prennent leur place, etc. Oui, tant mieux, j'en suis très contente, mais en ce qui concerne l'humour, et je dois vous dire que ce n'est pas tout à fait le cas maintenant. Parce qu'il reste qu'en 30 années d'enseignement, et ça ne me réjouit pas de vous le dire, là, mais depuis 30 ans que j'enseigne, alors que mes classes sont composées à 90 % de filles, j'ai connu dans ma vie une fille qui faisait les blagues. Une qui prenait le lead, comme on dit, de faire les blagues, alors que les autres étudiants pouvaient se permettre de rire. Pour le reste, c'était le même pattern. Les gars font les blagues, les filles les rient. Et c'est un conditionnement social qui part de loin et dont on voit les résultats de façon détournée dans les petites annonces. Vous remarquerez ça aussi. La femme qui cherche homme avec sens de l'humour. L'homme qui cherche une femme mince, non fumeuse, 20 ans plus jeune. Sens de l'humour, non, c'est pas dans les cartes. Et en fait, les recherches en psychologie indiquent que la femme rit parce qu'elle manifeste ainsi son besoin d'être acceptée par l'autre dans un rapport de séduction. Elle rit même plus volontiers, selon certaines études, des blagues faites aux dépens des femmes que faites aux dépens des hommes. Autrement dit, elles ont tellement peur de ne pas avoir le sens de l'humour que même si on rit d'elles, c'est pas grave, on part à rire pour que l'entente se fasse. Est-ce qu'elles ont si peur de se faire dire qu'elles n'ont pas le sens de l'humour? Peut-être. Et en plus, la femme trouve souvent, et ça c'est des études qui le montrent, les hommes plus drôles carrément que les femmes. Est-ce que c'est parce qu'elles ont entendu si souvent dire les femmes que les femmes n'ont pas le sens de l'humour qu'elles ont fini par le croire? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, on voit que les femmes humoristes, ou qui veulent être humoristes, ne sont pas sorties de l'auberge, parce qu'elles ont à conquérir un public autant hommes et femmes. Et le domaine de l'humour est, avec la politique, un des derniers bastions masculins. Et ce n'est pas innocent. Pour moi, l'humour, c'est le cinquième pouvoir. Alors, pour entrer dans le cénacle de l'humour, il faut en effet beaucoup d'audace et de sacrifices. Audace parce que l'entreprise nécessite pour la fille d'en finir avec le manque de confiance en soi atavique qu'on retrouve chez presque toutes les femmes. Elles restent les filles drôles quand on est dans l'humour privé, celui qui jaillit dans la cuisine, au resto, avec les amis. Les filles qui s'autorisent à être comiques dans l'intimité, et j'en ai assez dans mon entourage pour en tirer des enseignements, ont toutes connu l'ultime frustration de voir un gars sur la scène faire les folies, lancer les blagues qu'elles-mêmes ont inventées dans le public. On dit que les grands esprits se rencontrent, mais les filles ont souvent pensé à ces blagues-là. Et là, les filles disent « Hey, j'aurais pu faire pareil, je fais ça chez nous, comment ça fait que c'est pas moi qui suis sur la scène? » En effet, pourquoi est-ce que les filles ne montent pas sur la scène? Bon, toutes les femmes qui parviennent à se tailler une place en humour répondront en évoquant la compétition féroce avec laquelle elles doivent composer. Évidemment, la compétition, c'est l'apanage aussi des hommes et des femmes. C'est pas inhérent aux femmes. Mais cette compétition-là fait quand même ressortir le caractère socio-sexué de la situation féminine. Isabelle Ménard, elle, va évoquer la remise en question par laquelle doivent passer les filles qui veulent percer dans le domaine de l'humour. Elle dit, les filles ont tendance à être plus exigeantes envers elles-mêmes. Chacune de leurs défaites, de leurs victoires est plus intense que pour un gars. À cette réflexion fait écho celle de Julie Caron, qui insiste sur la crainte du rejet, bien sûr, mais aussi sur le besoin viscéral de faire rire qui donne le courage de passer par-dessus la peur. Elle dit, Julie Caron, « Moi, j'ai une amie qui est 100 fois plus drôle que moi, mais jamais elle n'irait monter sur la scène pour faire rire. Alors, c'est elle qui me fournit une partie de mon matériel. » C'est bien ça, elle a une script qui est presque attachée à elle, ça va très bien. La question du genre sexuel dans le domaine reste centrale malgré le chemin parcouru. Il faut foncer comme un gars, il faut avoir envie de prendre le crachoir comme un gars, ne pas craindre la compétition comme un gars. Et comme me l'a fait poétiquement remarquer Chantal Lamarre, elle résume la question en disant « Si on veut faire de l'humour quand on est une fille, il faut se greffer une gosse. » Fin de citation. C'est pas moi qui le dis. Ce consensus met en évidence deux choses fondamentales. D'abord, l'importance comme condition de réussite sur les planches d'adopter un comportement masculin dans toute la force du stéréotype, puissance, assurance, maîtrise de soi, et de refouler son déterminisme féminin, ici encore dans toute la force du stéréotype, douceur, compassion, tendance à l'épanchement. Les nouvelles venues qui acceptent de jouer le jeu du gars sont plus susceptibles de parvenir à se tailler une place, mais c'est étrange parce qu'elles ressentent quand même, ces filles-là, le besoin d'afficher leur côté femme, même par la dérision. Exemple, Cathy Gauthier, premier spectacle, 100% vache folle, alors que Julie Caron, son spectacle s'intitulait « Une fille, une vraie fille, c'est moi ça », point d'interrogation. Donc, la discrimination sexuelle dont sont l'objet les femmes en humour entraîne des répercussions positives. Julie Caron et Cathy Gauthier vont dire que les gars les ont bien aidés, les ont accueillis, comme si c'était des gars de la gang. Moi, je veux vous dire que mon cynisme atavique fait en sorte que j'ai l'impression que si les gars sont si conciliants encore maintenant, c'est que les femmes ne sont pas tout à fait aussi menaçantes. On verra quand les quotas seront de 50% si la mansuétude masculine est toujours aussi présente. Mais je ne suis pas trop optimiste là-dessus. Donc, les effets du genre compliquent l'existence et entravent les mouvements des femmes sous des aspects imperceptibles pour les profanes, que je suis, qui n'ont pas accès aux coulisses du showbiz. Isabelle Ménard raconte, et c'est des détails, voyez-vous, je pense pas jusque-là, elle dit que elle avait choisi un agent et son agent a refusé de la prendre dans son écurie, si je peux dire, parce que la blonde de l'agent s'inquiétait de la proximité qui pourrait s'installer, de la complicité entre les deux pendant les tournées. Alors, il a dit, va te trouver quelqu'un d'autre. Et Marie Von Cyr, elle, dit que derrière un humoriste, il y a une équipe, ça on le sait, mais l'équipe compte pour 90% du succès d'un humoriste. Autrement dit, il y a les scripts, il y a les éclairagistes, il y a les gens de tournée, etc. Et elle, son agent lui a dit, honnêtement, fille, je vais faire passer d'autres membres de mon écurie avant toi. Je mise plus sur les gars. Alors, elle a salué, disons, la franchise de son agent, mais ça lui faisait une belle jambe. Et de son côté, Chantal Lamarre me racontait une anecdote. Elle dit, moi, j'ai eu à faire une entrevue à un moment donné pour pouvoir faire un commercial. Et je m'en étais tenue à mon texte comme ça, très, très scolairement. Et c'est un gars qui a eu le contrat pour le commercial, mais le gars, lui, on lui avait laissé carte blanche. Alors, Chantal Lamarre a dit, c'est pas tant d'avoir raté le commercial qui me dérangeait, mais de voir que moi, on ne m'avait pas laissé carte blanche. Moi, il fallait que je reste encadrée dans un certain discours. Donc, voyez-vous, ce sont des détails comme ça, mais qui montrent que il n'y a pas seulement toute la question du conditionnement, mais la question des conditions terre-à-terre pragmatiques aussi de l'humour. Il y a aussi la question de l'apparence physique. Ménard, Isabelle, toujours, mentionne qu'il y avait quelqu'un qui voulait la voir, la rencontrer, parce qu'il avait entendu dire qu'elle était drôle et belle. Ça revient un peu à l'idée de l'humoriste qui fait nécessairement dur, là, bon. Mais parce que les filles, évidemment, doivent s'exposer au public et imposer une présence aussi physique que spirituelle. Et c'est une immense gageure dont elles ne sortent pas nécessairement gagnantes parce qu'elles sont perdantes à tout coup, en fait. Si elles sont trop séduisantes, elles s'aliènent le public féminin, parce que par définition, on le sait, chaque femme est la rivale de sa voisine. Okay? Et il reste que comme ce sont les femmes qui achètent les billets dans le couple, ça c'est des statistiques, là, c'est pas moi qui invente, là. Comme ce sont les femmes qui achètent les billets dans le couple, ce qui se passe, c'est que la fille va hésiter à installer son chum devant, et ça c'est, je prends les mots de Marie-Claude Girard, devant une fille pétard qui va sortir des lignes killer. Autrement dit, si, les punchs et tout ça, ça dérange un peu la conjointe. Moi j'aurais pensé qu'on était rendu plus loin que ça, mais apparemment, statistiquement, c'est comme ça. Si par contre, les humoristes n'ont aucun charme physique, on parle des humoristes féminines ici toujours, elles apparaissent peut-être moins menaçantes pour la portion féminine de l'auditoire, mais elles ne font pas de beaux posters et ne sont pas vendables pour les spectateurs et les gérants, vendables pour ne pas dire autre chose. Okay? Enfin, il y a le facteur bébé. Le facteur bébé pèse de tout son poids sur la carrière de l'humoriste féminine. À part Lise Dion qui avait eu ses enfants, elle, avant d'être révélée au public, au Québec, rares sont les stand-up comiques qui ont des enfants. Julie Caron l'a dit, elle a pris la décision de ne pas avoir d'enfants, elle, pour pouvoir faire sa carrière. Claudine Mercier a commencé son avant-dernier spectacle en disant « J'avais le choix entre faire un bébé ou faire un spectacle, je fais un spectacle. » Et ça, c'est intéressant parce que on n'a pas le temps de s'y attarder ce soir, mais c'est très particulier au Québec parce que si on regarde en France, ça ne fonctionne pas comme ça. Le rapport à la parentalité n'est pas le même du tout, mais je ne m'engage pas sur ce terrain-là. C'est dans un tout autre domaine, mais il reste que cette maternité-là peut empêcher l'humoriste de continuer ou l'obliger à faire des choix qui sont très difficiles. Mais une fois qu'elle a réussi à se hisser sur les planches, notre humoriste, que dit-elle, que peut-elle dire et comment le dit-elle? Là, il y a un autre important défi, parce que la femme fait face à un public qui l'attend au tournant, on l'a vu pour la portion féminine, mais il reste l'autre portion masculine qui, cette portion-là, n'est pas nécessairement habituée à servir de tête de turc, surtout pas à une femme si comique soit-elle et en public. Alors, quoi faire, quoi dire pour échapper à la condamnation suprême, faire de l'humour de fille? Les enjeux ici aussi sont socio-sexués. Jusqu'où une femme humoriste peut-elle aller trop loin? Et c'est ici, je crois, que se profilent les véritables progrès des femmes en humour parce que les sujets qu'elles abordent, à défaut de renouveler le discours humoristique, parce que je vous l'ai dit tantôt, les thèmes hommes-femmes sont à peu près les mêmes, Mais cet humour-là va nous obliger à considérer le monde sous un nouvel angle. L'espace d'un spectacle finit les blagues du gars qui rit de sa blonde, place à la fille qui se moque de son chum, ou à travers lui, de l'autorité masculine, patriarcat, misogynie. À cet égard, les nouvelles venues sont particulièrement audacieuses. La tendance actuelle est plutôt à l'attaque de la cavalerie. Les filles se déchaînent. Au premier rang de leur cible de prédilection, c'est pas les hommes, d'après ce que je peux voir, et ça me fait très plaisir de le dire, figure l'obsession de la beauté et de la perfection qui donne lieu à une critique très dure d'une société qui est encore aujourd'hui toujours plus exigeante envers les femmes. On peut y voir une douce revanche sur la façon évoquée plus haut dont les humoristes sont déterminés d'abord par leur physique. Julie Caron avait ouvert le bal avec sa tirade désormais célèbre. La calvitie, c'est comme la cellulite, c'est laid, mais c'est normal. En voulant dire, revenez-en. Et elle dénonce le deux poids, deux mesures qui prévoit en matière d'enveloppe extérieure. Et ses remarques ironiques sur le botox, frénésie encore majoritairement féminine, qui prive les femmes de toute expression, ont trouvé un écho chez Isabelle Ménard. Donc, les filles ont repris ce thème-là, et c'est assez jouissif. De même, les moquettes coquettes dans le sketch « Le cours d'aérobie » dénoncent l'arnaque des centres de conditionnement physique, miroir aux alouettes pour des milliers de femmes désireuses de correspondre à l'idéal féminin. Cette fois, la nouveauté réside dans l'angle d'interprétation du discours. C'est une monitrice qui se fait complice d'un système qui vend du rêve à des proies naïves. Alors là, je vais essayer de vous rendre ça, là, c'est un tout petit paragraphe, mais c'est sur le web, ça. Bonjour Bourlet, bonjour Cellulite, bienvenue au cours d'aérobie, le cours où vous vous dites tout secrètement et que j'aimerais ça être shapé comme elle. Mais c'est impossible! Je m'entraîne 30 heures par semaine, je n'ai jamais enfanté, je mange un demi-repas par jour et je me suis fait liposucer le surplus il y a 2 mois. À fac, oubliez ça, vous allez suer comme des cochonnes pour rien pantoute. Fin de citation. Alors, ça continue, là, mais là, je vous en donne un extrait. Sous le comique de la situation, on peut voir une mise en garde que je trouve moi, presque morale. C'est comme si on nous disait, comment une femme peut-elle à ce point mépriser ses semblables et maîtriser d'une certaine façon? Réagissons à ce qu'on essaie de faire de nous, semble-t-elle suggérer, même et peut-être, surtout, quand il faut s'élever contre des femmes qui nous contestent le droit d'être imparfaites ou qui professent par leurs agissements le retour de la femme-objet. C'est une régression, ce retour à la femme-objet, qui irrite pas mal de filles, d'ailleurs. Parce que Chantal Lamarre, elle dira que si elle avait à monter un nouveau spectacle, ou si elle avait à monter un spectacle tout court, elle dénoncerait justement le retour de la pitoune. Puis elle dit, même si je sais que ça m'attirerait des commentaires du genre « on sait bien, toi, 5 pieds, des lunettes », parce qu'elle est tout petite avec des lunettes. Les hommes ne sont pas en reste, toutefois, et constituent la deuxième cible des filles. Les amoureux maladroits, les gars pas plus brillants qu'il faut, en prennent pour leur grade. J'ai retenu le passage suivant du show de Cathy Gauthier. Alors, Cathy Gauthier, vous la savez, ça peut être assez, vous la connaissez, ça peut être assez vulgaire, assez salé. Alors là, elle se promène sur la scène en se frottant l'entrejambe. Elle dit, Firmin, c'est le fou du village. Il passe son temps à courir partout à l'aréna. On a pitié de lui, on lui paye des chips une fois, des fois une petite liqueur pour lui faire plaisir. Il faut bien, après tout, c'est le maire. C'est une citation. Alors, les filles rient des gars et elles ont à l'œil les travers féminins, bien sûr, mais elles ne rient plus d'elles nécessairement comme individus. Elles veulent traquer les aberrations de l'existence et on doit les féliciter de délaisser enfin l'autodénigrement que je distingue de l'autodérision. Là, ici, j'ouvre une parenthèse justement pour préciser un peu d'où je parle. Pour moi, l'autodérision, on dit souvent que l'autodérision, c'est un signe de maturité. Quand on est capable de rire de soi, ça veut dire qu'on a une maturité. OK, je veux bien. Sauf que les femmes, surtout, font de l'autodérision. C'est très rare que les hommes font faire l'autodérision. Alors, il y a comme un deux poids, deux mesures ici. Et les femmes vont tomber quelquefois dans ce que j'appelle, moi, l'autodénigrement. C'est-à-dire que ce n'est plus la condition féminine contre laquelle elles en ont. C'est elle-même comme individu. Elle rit d'elle-même comme personne. Et l'exemple le plus probant, c'est Lise Dion. Lise Dion, que j'aime beaucoup par ailleurs, mais qui m'a beaucoup déçue dans son dernier spectacle. Sur 2 heures de spectacle bien comptées, il y a 1h20 qui sont consacrées à sa grosseur. Tout y passe. 1h20. Donc là, à ce moment-là, je trouve qu'on perd de vue un peu le côté savoureux, même de l'autodérision. Je vous donne un exemple de Lise Dion, toujours dans ses premiers spectacles. Quand elle arrive sur la scène avec des souliers à talons aiguilles, vous savez, elle est assez corpulente, puis elle marche comme ça, tout croque. Là, elle dit, ça, là, mes amis, les souliers à talons hauts, c'est le Vietnam. Là, on se dit, ah, il y a une critique. Là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une torture qu'on s'impose. OK. Quand elle dit qu'elle est allée essayer des maillots de bain et qu'elle a essayé un string et qu'on ne l'a jamais retrouvé, OK, il y a une image, je trouve ça bon, c'est rebondi, c'est comique. Mais lorsque je l'entends, moi, systématiquement, se prendre elle-même comme objet, là, je me dis, c'est du masochisme. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Là, pour moi, on tombe dans l'auto-dénigrement. Ça n'a plus rien à voir avec cette maturité-là qu'on est censé avoir quand on fait de l'auto-dérision. Donc, si la situation évolue, le public n'est pas toujours disposé à suivre les femmes humoristes pour autant. Et c'est pour ça que traditionnellement, on aimait tant l'autodérision chez les femmes, parce que les femmes se moquant d'elles-mêmes, elles n'allaient pas heurter l'autre la portion masculine de l'auditoire ou les autres personnes dans la scène. À ce moment-là, on pouvait rester tranquille, l'autodérision faisait une seule victime qui était soi-même. Mais là, même si la situation évolue, ça veut dire que les femmes détournent, se laissent tranquilles un peu et vont ailleurs. Et là, le public n'est pas toujours prêt à les suivre. Les moquettes coquettes, ça c'est récent, les moquettes coquettes racontaient qu'à un moment donné, dans un sketch un peu corsé, elles entendaient des « on » de l'assistance. Là. On n'était pas prêt à les suivre jusque-là. Et Claudine Mercier, elle va provoquer les choux de la portion masculine dans son dernier spectacle quand elle les prend directement les hommes pour cible. Donc, une telle résistance atteste la prise en compte du sexe des artistes. Autrement dit, on entend encore la femme derrière l'humoriste. On sait que c'est une femme qui vient de prendre la parole. Et Louise Richer avait relevé le phénomène déjà en 89. Elle disait, quand une stand-up comique est un peu osée dans ses propos, le public a tendance à juger la fille derrière le personnage. Elle dit, des fois, je vois des comédiennes faire des bides avec des numéros sensationnels et je me dis alors, si c'était un gars qui était à leur place, il ferait un malheur. La résistance se dissout un peu, mais elle est encore là. Parce que les choses changent, mais très lentement. Les filles doivent ruser, en fait, avec leur auditoire. Puis un bel exemple de ça, c'est Nabila Ben Youssef, qui vient enfin de monter sur les scènes plus officielles. Ça fait longtemps, elle, qu'elle trépigne dans les coulisses. Mais dans ses shows sur les scènes plus confidentielles, dans les cafés, justement, comme ça ici, elle pouvait aller très loin. Par exemple, dans son spectacle « Arabe et cochonne », elle s'assume en tant que cochonne, elle racontait le voyage en avion d'un groupe d'hommes en route vers un festival de lapidation, assorti d'un tirage, 5 pierres gratuites, pendant que les femmes, qui sont nommées des chèvres, étaient dans la soute à bagages allongée pour protéger les valises des hommes. Ça, c'était sur les scènes confidentielles. Maintenant, sur la scène du Saint-Denis, elle va plutôt miser sur une réflexion concernant les différences culturelles qu'elle observe au Québec. Et c'est là qu'on a compris pourquoi les Québécois déménagent le 1er juillet. Parce que les Québécois déménagent le 1er juillet, c'est pour gâcher la fête du Canada. Donc, le résultat est peut-être moins tranchant, mais permet à l'humoriste, qui reste fidèle à son besoin d'éveiller les consciences, de rejoindre un public plus large. Autre parenthèse, ici aussi, il y a un deux poids, deux mesures. Parce que Nabila Ben Youssef, c'est une Canado-Tunisienne. Elle a dû trépigner, comme je le disais tantôt, des années dans les coulisses, alors que Michel Mumbara, Bocar Diouf, Rachid Badouri, tous ces gens-là qui viennent dire aux Québécois « Comment peut-on être Québécois façon Montesquieu? » là, c'est monté sur les planches tout de suite, ça a eu des succès instantanés. Pas la fille. On n'était pas prêts encore à entendre ce qu'elle avait à dire. Et comme si c'était passé, il reste une autre question concernant les femmes humoristes, leur rapport avec le féminisme. On ne demande jamais à un homme quelle est sa position idéologique face à son discours, à la société en général, mais on pose souvent la question aux femmes, ce qui les irrite encore plus que l'autre question, pourquoi y a-t-il si peu de femmes humoristes? Mais ne reculant devant rien pour les progrès de la science, j'ai posé la question. Effectivement, cette question-là suscite un gros malaise. Il y avait au Québec, dans les années 80, une troupe qui s'appelle les Folles Alliées, qui, elles, ont décidé de prendre le problème, le taureau par les cornes, et elles ont dit « Nous, on fait de l'humour féministe ». Alors, elles ont fait des pièces de théâtre, elles ont fait « Enfin, Duchesse », qui est une satire du Carnaval de Québec, « Mademoiselle Autobody », qui est une pièce contre la pornographie, « C'est parti, mon sushi, un show cru », qui est une espèce de show de variété, comme ça. Et elles, c'est les seules vraiment à avoir fait de leur travail, l'essence de leur travail, ce rapport-là entre humour et féminisme. Dans les personnes que j'ai rencontrées plus récemment, il y avait Chantal Lamarre, qui, elle, a été élevée, si je peux dire, au théâtre expérimental des femmes, et les moquettes coquettes qui se disent féministes. Les autres contournent la question, et je les comprends, parce que c'est assez impliquant, en disant que leur texte et leur présence sur scène parlent pour elles, où elles font même plus des blagues sur le féminisme. Et témoin de la boutade d'Isabelle Ménard dans son show qui s'appelle le One Ménard Show, la femme de 30 ans a l'impression de s'être fait avoir. Avant, elle s'occupait du ménage, des repas et des enfants. Maintenant, elle travaille 40 heures par semaine et s'occupe toujours du ménage, des repas et des enfants. Alors, la remarque aurait de quoi déprimer la militante féministe que je suis, mais je préfère y voir l'expression d'une parole qui ne souffre aucun tabou. Et ça, pour moi, c'est intouchable. Donc, les filles qui osent faire rire sur quelque tribune que ce soit bouleversent au fond l'ordre des choses. Elles sont, je dirais, par leur façon d'être agentes, elles sont d'une certaine façon un petit peu féministes, mais il ne faut pas le leur dire. Ce sera c'est un exquis malentendu, là. Chut, on n'en parlera pas. Mais s'il manque encore des filles sur scène, ça ne veut pas dire qu'elles ne font pas d'humour. Elles vont exercer leur humour ailleurs. Elles ne correspondent pas au profil recherché par les producteurs? C'est pas grave, il faut faire autre chose. Je donne un exemple, les clips sur le web de Sylvie Tourigny. Carole aide son prochain, c'est totalement surréaliste, vous irez voir ça. Ça, c'est fou, ça n'a pas de bon sens. Caroline Allard et ses chroniques d'une mère indigne. Elles sont pas capables, elles ne se sentent pas capables d'affronter le public, c'est pas grave, elles vont devenir scriptrices. Il va avoir toutes sortes de façons pour elles de s'exprimer. Et pour vous donner un exemple, je vais vous faire complice d'une expérience. Il y a Émilie Ouellette qui a préparé ceci, c'est un DVD au suivant, qui s'appelle au suivant. Ça dure 6 minutes, cette DVD-là, et sur cette DVD-là, elle se présente. Et elle a fait, je pense, 1000 copies du DVD. Elle m'en a donné une de ces copies-là. Et ce qu'on fait pour connaître qui est Émilie Ouellette, on regarde simplement ce DVD-là et ensuite on coche, ça c'est ma coche, comme ça, et on passe ça au suivant pour que l'autre personne puisse connaître Émilie Ouellette. Alors tiens, on va commencer, mais pas tout de suite, là. Attendez la fin de ma conférence, mais quand vous l'aurez lu, donnez-la à n'importe qui des amis, puis vous allez voir, à la fin, c'est marqué « Quand la 100e personne aura coché, s'il vous plaît, veuillez contacter Émilie Ouellette pour lui dire qu'il y a eu 100 personnes qui ont vu ce DVD-là. C'est très court, c'est 6 minutes, et franchement, c'est vraiment bien fait. Et ça va vous donner une idée des voies que peuvent prendre l'humour des femmes. Donc, on voit maintenant pourquoi la route est si ardue. Les concessions à faire pour arriver au sommet, le rejet de la part dite féminine du point de vue du stéréotype, renoncement dans certains cas à la maternité, négociation des délicates avec les équipes de production, tout ce que j'ai dit, bref, tout ça, tous ces aspects-là présentent un dénominateur commun, ils sont extérieurs au talent. Les filles ont le sens de l'humour, mais certains croient encore qu'elles en sont dépourvues, parce que comme le dit Wayne Booth, dans ce domaine, il peut arriver qu'on ne trouve pas drôle quelqu'un simplement parce qu'on ne sait pas déjà qu'il peut être drôle ou parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'il soit drôle. Exemple, moi quand je fais la première blague dans ma classe, rarement ça rit. Pourquoi? Parce que professeur d'université, humour, ça ne va pas ensemble. Les étudiants se disent, est-ce que j'ai bien compris? Ou est-ce que la blague est volontaire? Pas sûr. Autrement dit, il faut savoir que quelqu'un est drôle pour le trouver drôle. Alors, ça fait une espèce de cercle vicieux. S'il faut savoir que la femme est drôle avant de savoir qu'elle est drôle, on ne saura jamais qu'elle est drôle parce qu'on ne l'a pas su avant qu'elle était drôle. Voyez-vous? C'est comme ça que ça marche. Bon, la question se corse quand on arrive au texte plus spécifiquement littéraire. En effet, si on achète un billet pour une humoriste, on sait qu'on s'en va voir de l'humour. On sait qu'on s'en va se faire rire toute une soirée par une humoriste. Si on achète un livre, on s'engage dans un tête-à-tête avec une œuvre, dans une intimité, évidemment, qui est peu propice à l'éclatement d'un rire sonore ou aux tapes sur les cuisses. Le rapport à l'humour est profondément différent, et je vais vous citer Alain Vaillant qui résume magnifiquement ce que je veux vous dire. Il dit « Parce que le rire, rigoureusement considéré comme un spasme musculaire et un bruit de bouche, est indicible, la littérature est paradoxalement la seule forme discursive capable, par son pouvoir de symbolisation et de suggestion, d'en esquisser les contours et d'en faire deviner la présence par défaut, même si le rire lui-même est condamné à rester à la lisière du texte. La littérature a donc le privilège exclusif de garder la trace, mais seulement la trace, du rire, comme les photographies auraient, dit-on, le pouvoir de révéler par un léger voile opaque la présence furtive des fantômes invisibles à l'œil, si bien que le silence assumé de la page reste peut-être une des meilleures manières de faire entendre, en imagination, l'éclat sonore du rire. Fin de citation. Alors, cette perte du rire sonore est largement compensée par le plaisir du littéraire. En plus de l'image qui fait sourire, du trait d'esprit qui épate ou qui choque, la littérature offre en prime le style particulier de chaque auteur. Plus exigeant, l'humour littéraire prend son temps et exige du temps du lecteur. On arguera peut-être que si l'humour ne saute pas aux yeux, c'est que le texte n'est pas vraiment drôle. Je rappellerai pour mémoire que le grand Faulkner a longtemps été perçu comme un auteur tragique en France parce que les traducteurs avaient évacué tout ce qui était comique dans ses dialogues. Alors, pendant qu'on peinait en français et en France sur ses œuvres, toute l'Amérique s'esclaffait en lisant Faulkner. Un autre malentendu. La littérature est dans une position précaire face à l'humour. Elle n'offre pas le support du geste, de la mimique. Elle est seule devant l'incertitude du lecteur. Et la littérature des femmes, à cet égard aussi, part avec une longueur d'arrière. On ne soupçonne pas à quel point elle peut contenir de l'humour, cette littérature-là des femmes, parce qu'on lit moins les œuvres de femmes au départ. Ensuite, les ouvrages humoristiques ou qui contiennent plus généralement ce que j'appellerais l'esprit des femmes demeurent moins connus, moins publicisés à travers l'histoire. J'en veux pour preuve, toutes les anthologies qu'on consulte, non, pas toutes, presque toutes, 99% des anthologies, 99% des livres qui étudient la satire, qui étudient le pastiche, la parodie, tous les avatars de l'humour et de l'ironie, ne présentent jamais des études de textes de femmes. Alors, c'est comme un cercle vicieux, parce qu'on se dit, bon, mais si j'ai lu, je sais pas moi, 8 livres sur la satire, aucun de ces 8 livres-là ne parle d'une satire au féminin, ça veut donc dire que les femmes ne font pas de satire. C'est un cercle vicieux. Elles ne sont pas là, ça doit vouloir dire qu'elles ne sont pas drôles, parce que si elles étaient drôles, ça se saurait, puis on les aurait dans les anthologies. Ça marche comme ça. Et ça contribue à nourrir l'idée que les femmes ont moins d'humour que les hommes. Pourtant, et c'est ça qui est intéressant, en littérature, les femmes osent aller encore plus loin que sur la scène. Elles n'ont pas affronté un public qui pourrait leur lancer des tomates. Voyez-vous, elles délaissent même souvent l'indulgence de l'humour pour lancer des flèches carrément ironiques. On ne le sait pas, je le répète, parce qu'on ne les lit pas, ou on les lit moins. Et ce malentendu explique pourquoi certaines pages de la trilogie des manuscrits de Pauline Archange de Marie-Claire Blais, oui, Marie-Claire Blais, apparaissent tordantes uniquement pour les initiés. Alors là, je vais vous donner un exemple, mais évidemment, comme c'est le texte littéraire, vous n'aurez pas en tête les guillemets, les parenthèses, les tirets, etc. Mais je vous donne un exemple. C'est Pauline Archange qui raconte que on a les religieuses, une religieuse qui a demandé aux jeunes filles dans la classe de dire quelle est la profession de leur père. Alors, Marie-Claire Blais écrit ceci. S'informant de la profession de notre père, arrangeur de lavabo, Mère Saint-Georges, fleuriste pour les morts, la sœur tout saute de confusion odorante lorsque Marc Dubos, dont l'ambition est de devenir plus tard lieutenant dans la marine ou bien pilote d'avion, dit en mâchant de la gomme que son père est un gros avocat sans cœur qui pense uniquement à manger l'argent de son prochain, mais seule une note hiérarchique a touché le cœur de Mère Saint-Georges, car elle dit en frémissant « Nous sommes toujours heureuses d'avoir des avocats dans notre couvent. » Voyez-vous, on confond l'avocat père avec l'avocat fille, la fille n'est pas avocate, mais l'argent de l'avocat est dans le couvent. Tout ça, c'est du sous-entendu, ce n'est pas la grosse blague sur la scène, mais c'est savoureux. Il en va de même pour les nouvelles Esquimaudes de Gabriel Roy, qui n'est pas nécessairement et généralement perçue comme une boute-en-train ou comme une contemporaine de la poule, on s'entendra là-dessus. Alors, un exemple tiré de « Où t'en vas-tu, Sam Liang? » Ça, Sam Liang, c'est un Chinois qui est arrivé pour se partir un commerce dans l'Ouest canadien. Et la citation va comme suit. Jim Farrell apostropha directement le chink. « Toi, Chinois, bien chanceux au fond de n'avoir pas femme. » Sans posséder encore un vocabulaire étendu, Sam Liang serait parvenu à s'exprimer très convenablement si on l'y avait un peu aidé. Il apprenait vite. Mais on continuait de lui parler comme à un déficient. Et lui, par politesse, pour ne pas faire honte à ceux qui lui parlaient ainsi, répondait à peu près sous le même ton « Oui, Wang, chanceux, pas femme. » Fin de citation. Donc, évidemment, il se passe énormément de choses dans ces deux seuls extraits, et ma lecture seule ne peut pas en rendre compte. Là. On est loin du delivery sur scène, ce que les humoristes appellent le delivery, c'est-à-dire une ligne, un punch, une ligne, un punch. C'est pas ça du tout, du tout, du tout. Mais ici, on a de l'humour dans la typographie, la calligraphie, l'organisation des paragraphes, mais on en a aussi quelquefois dans la construction même du texte. Chose qu'on a moins quand on a affaire à du stand-up. Un exemple d'une nouvelle qui s'appelle « Hail Chimie » de Suzanne Meer, qui est tirée de son recueil « Humain aigre-doux ». La nouvelle est constituée de cartes postales que Pierre, qui est en congrès à San Diego, envoie à sa blonde « Restez au Québec ». Alors, c'est tout ce qu'on a. On a seulement les cartes postales. Alors, le lecteur va deviner en même temps que la blonde « Restez au Québec » que Pierre est en train d'avoir une aventure avec une congressiste. Première carte postale. Il n'y a pas grand monde qui retienne mon attention ici, à part cette chimiste allemande, peut-être parce qu'elle me rappelle toi quand je t'ai connue. Deuxième carte postale, troisième, quatrième, cinquième carte postale. Au cinéma, j'ai tellement ri que mon popcorn s'est renversé sur la jupe de McDo. Ça m'a rappelé la fois où j'ai renversé les chips au barbecue sur ta petite robe jaune. Alors, vous voyez, tout ça ici, on sent, on lit avec la blonde qu'elle est en train de se faire tromper là-bas. Et là, Meer tourne son Pierre en ridicule pour notre plus grand plaisir. La blonde délaissée n'est pas dupe et envoie promener son Roméo qui doit retourner chez sa mère. Et on se dit, bien bon pour lui. Donc, évidemment, Meer, je reviendrai tantôt, c'est une des figures de proue de l'humour littéraire. Mais il reste que de faire de l'humour littéraire est une entreprise difficile, dont Bessard Banquet dira qu'elle consiste essentiellement à lutter contre toutes les forces de la trivialité courante. Puisqu'on associe l'humour et la légèreté, okay, on dit toujours la vulgaire comédie n'est-elle pas obstinément perçue comme l'opposé de la valeureuse tragédie, c'est donc dire qu'il doit fuir la facilité, cet humour-là, et par ricochet, le rire et l'effet facile qu'on lui impute souvent. Donc, l'humour littéraire n'est pas toujours léger, mais en tout cas, il n'est jamais reposant. Mais dans ces conditions-là, est-ce qu'on peut encore parler d'humour? S'il faut travailler pour rire, pour comprendre le texte dans ses subtilités, est-ce que c'est encore drôle? Freud dirait non, sans doute, lui qui voit l'humour comme une économie des affects. C'est peut-être tout bonnement l'indice de la supériorité de l'humour littéraire sur toutes les autres formes d'humour. Vous aurez compris que c'est une littéraire qui parle ici. Mais revenons à l'humour littéraire des femmes plus spécifiquement. Hormis Suzanne Meer, qui affiche clairement son parti pris humoristique, tout comme l'avait fait Louise Leblanc avec 37,5-2A, qui se voulait un pastiche des romans arlequins, Nadine Bismuth qui disait en entrevue qu'elle voulait qu'on parle de ses livres comme d'un humour typiquement bismuthien, Hélène Pennault qui faisait des chroniques délinquantes dans La vie en rose, justement pour contrebalancer le poids des mauvaises nouvelles du reste de la revue. Si les auteurs québécoises inscrivent l'humour et l'ironie dans leurs textes, elle ne présente pas cette caractéristique-là comme une fin en soi. Elle ne se donne pas comme mission de faire de l'humour. Et ça leur permet de conserver une liberté qui fait en sorte d'altérer un peu notre perception de la notion même d'humour en mettant sur un même pied, pour reprendre l'expression de Plessner, le rire et le pleurer. Parce que j'ai toujours été intriguée par ce que j'appellerai la mélancolie que dégagent de nombreux textes féminins, pourtant humoristiques. On sourit beaucoup en les lisant, mais le pincement au cœur qui accompagne ce sourire tempère l'euphorie pour ramener l'émotion vers une légère tristesse. Et comme par hasard, les auteurs que je considère les plus intéressantes en littérature à cet égard offrent ce paradoxe dans le rire. Suzanne Jacob, Monique Larue, Monique Proulx, Hélène Monette, Marie-Renée Lavoie, et en France, Benoît Groulx, Christiane Rochefort, Muriel Barbéry, Amélie Nothomb dans certains textes, elle est belge, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire, ils vont promener un regard décapant sur ce monde qui les entoure, mais afficher en même temps dans leurs œuvres, ou à tout le moins certains de leurs textes, une sorte de désillusion assumée qui résonne comme le constat d'une perte. Freud, encore lui, fait la distinction entre le deuil, qui est le travail qui se fait lors de la perte d'un être réel, et la mélancolie, qui est une fixation sur la perte d'un objet imaginaire. Et la mélancolie que je vois à l'œuvre dans les textes de femmes me semble bien être la réponse à une incomplétude, un sentiment constant de manque, l'expression d'une perte. J'ouvre deux parenthèses. La première pour dire, rappeler qu'au Moyen Âge, la mélancolie était interprétée comme un dérèglement de l'atrabile, une des quatre humeurs du corps avec le sang, la lymphe et la bile jaune. Parce que les médecins chargés de s'occuper des humeurs des gens s'appelaient des humoristes. Et la seconde parenthèse sert à mentionner au passage la très intéressante étude de Juliana Schizari, je prononce mal son nom, The Gendering of Melancholia, qui montre que même en mélancolie, il y a encore le sempiternel deux poids, deux mesures. En effet, si je résume brièvement et très cavalièrement son propos, la mélancolie des hommes de lettres a, depuis la Renaissance, été vue comme une maladie élitiste qui constitue, chez les hommes qu'elle frappait, une preuve de leur caractère exceptionnel, l'inscription de leur génie. En contrepartie, les femmes qui présentaient les mêmes symptômes étaient rangées sous le terme beaucoup plus banal et moins prestigieux de dépressives. Deux poids, deux mesures. Les hommes mélancoliques, ce sont des génies qui s'ignorent. Les femmes mélancoliques sont dépressives. Donc, fin de mes deux parenthèses. Humour et mélancolie, donc, deux termes étroitement liés, selon Marie-Claude Lambotte, qui les présente comme les deux faces d'une même certitude, l'un ne fixant pas sans l'autre. Elle va même plus loin. L'humour ressemblerait ainsi à une sorte de démence, appelée à transformer la mélancolie de l'impuissance en une plaisanterie moqueuse par la fonction d'un moi parodique auquel reviendrait la tâche de traiter la petitesse du monde à l'échelle de l'infini. Le rire se déclenche alors, empli à la fois de douleur et de grandeur, attestant par là même la profonde gravité des humoristes. Et chez les femmes, les motifs de cette mélancolie de l'impuissance ne manquent pas. Historiquement, elles ont été, et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, des citoyennes de seconde zone, absentes des postes de décision, soumises à la loi du père, étrangères dans leur propre maison, malgré tout le plat qu'on a fait du matriarcat, qui est une invention commode. On dira, le matriarcat, c'est bien, c'est les femmes qui sont au pouvoir. Non, non. Les femmes sont au pouvoir dans leur maison, quand le mari n'est pas là, puis dès qu'elles sortent, c'est le pouvoir clérical qui leur met la main dessus. Ça, c'est pas vrai. Donc, ici, je m'égare seulement en apparence, parce que la mélancolie, à mon sens, de l'humour de certaines femmes, participe de cette conscience aiguë d'une insatisfaction, d'un manque face à leurs aspirations ou leurs illusions envolées. On arguera qu'il en va de même pour l'humour de certains auteurs masculins, soit, mais sans tomber dans l'essentialisme, c'est-à-dire l'idée que les femmes sont par essence différentes des hommes, je dirais que les thèmes qu'elles abordent en humour, et surtout lorsqu'elles se font mélancomiques, sont marqués, eux, par leur genre. Prenons par exemple le roman « Le féminin pluriel » des Sœurs Groux, paru en 1965. Le roman met en scène Marianne, qui est écrite par Benoît Groux, et Juliette, qui est écrite par Flora Groux. Marianne apprend que Juliette, sa meilleure amie, a une aventure avec Jean, son mari à elle. Alors, ça fait un beau triangle comme ça. Et là, le roman va osciller entre l'écriture de la jeune maîtresse énamourée et joyeuse et l'écriture de Marianne, la légitime trompée. Et c'est sur elle que je vais m'attarder pour des raisons évidentes. Car dès le départ, Marianne promène sur Juliette, l'ami traîtresse et la société en général, un regard assassin qui sert d'anesthésiant momentané à sa douleur. Toutefois, cet humour fait à peine sourire. Je ne sais pas si c'est l'empathie du lecteur ou de la lectrice qui voit s'étaler dans les pages du roman l'expression du pire scénario de la vie conjugale, c'est-à-dire être trompé par son mari avec sa meilleure amie, qui cause ce pincement au cœur, plus près des larmes que du sourire. Je ne sais pas. Mais toutes les citations renvoient à cette espèce de sourire triste qui est évoqué. Exemple, la première page. « Jean n'est pas mort ni infirme, il ne me quitte pas, non, 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 rien d'extraordinaire. Il s'est simplement mis tout nu le long d'une amie à moi et lui a dit « je t'aime », il n'y a pas là de quoi hurler. » Cette dénégation de la gravité de la situation donne par antiphrase la mesure de la peine subie. Dans une rhétorique douloureuse, le personnage va égrener pour mieux les revisiter les lieux communs de l'adultère. Elle dit « Le chagrin des femmes mariées sent toujours le poireau, donc pour renvoyer aux tâches culinaires qui sont le lot des femmes mariées de cette époque-là. Ailleurs, on lit « L'adultère est entré chez nous avec ses gros sabots, familiers, grossiers, obligatoires comme la rougeole, stipulant que la fidélité du mari n'était que passagère et que par définition, et qu'il fallait s'y attendre. » En même temps que la peine, émerge une pointe de déception dans cette citation, comme si Marianne se réprimandait intérieurement pour avoir cru que leur couple allait échapper à cette norme-là. D'autres exemples de citations en rafale qui émaillent ce roman-là. « Je n'ai plus une tête d'amoureuse, mais une gueule d'épouse qui lutte pour son bout de gras. Mais je ne me sens maîtresse ni de Jean, ni de la situation. Non, je ne veux pas être de celle qui se console en brossant des habits vides. je ne serai pas une femme de ménage à trois. Enfin, la phrase lapidaire, je ferai partie du troupeau aux yeux rouges. Ça traduit la détresse du personnage. Il y a l'idée que, parce que ça revient sur l'idée que toutes les femmes mariées, bien sûr, que Marianne apparente ici à des pauvres bêtes, vont connaître ce sort peu enviable. Et le recours au futur simple, aussi, qui annonce paradoxalement un futur assez compliqué, laisse entendre une résignation momentanée de l'épouse. C'est une thérapie un peu pour le personnage, puis peut-être pour la lectrice aussi. Cet humour-là mélancolique permet à Marianne d'évacuer la peine et d'évoquer la déroute sans s'y engouffrer complètement. Des citations, encore une fois, elle dit « Ah oui, c'est vrai, nous avons une maîtresse. » Plus loin, elle va dire « Nous sommes dans la mélasse. Tu l'aimes, je l'aime, elle t'aime, on s'aime, c'est à vomir. » Et enfin, elle dit « C'est tellement plus commode de faire du mal aux gens quand ils sont courageux. » Voyez-vous, tout le non-dit qu'il y a là-dedans, c'est très douloureux. Et enfin, à Jean, son mari, qui lui dit, Jean lui dit « Si je suis avec toi, dis-toi que c'est parce que je te choisis chaque jour et que ce n'est pas la morale ou le devoir qui me retiennent près de toi. Je n'aimerais pas découvrir que notre vie conjugale est bâtie sur des assises tristes. » Et elle répond intérieurement là, à l'intention du lecteur « Moi non plus. Résultat, je suis malheureuse, mais sur des assises gaies. » Donc, l'humour est une distance, il ne faut pas l'oublier. Alors, pour l'instant, elle est trop blessée, elle là, pour se moquer carrément de son époux. Et à la fin, on apprend que elle a laissé son époux, mais elle y retourne et son époux a encore sa liaison avec Juliette. Donc, il y a une fin qui n'est pas du tout un happy end, c'est un aspect du roman qui lui confère une réelle mélancolie. Il n'y a pas de renversement joyeux, il y a l'illusion du bonheur conjugal est bien envolée. Il faut trouver autre chose, il faut vivre autrement. Il faut apprendre à faire sans. Évidemment, le contexte, je le précise, ça se passe dans les années 65. Donc, à ce moment-là, la femme, dans le roman, il y a Juliette qui travaille, mais Marianne, c'est une femme au foyer qui élève ses deux enfants. Ça peut sembler un petit peu caduque, mais en fait, la thématique, je veux dire, les questions de l'adultère, ce n'est pas plus sereinement qu'on aborde la question nécessairement, même en 2012. Et c'est un peu la même chose avec le roman « La porte du fond » de Christiane Rochefort qui raconte un inceste, sujet douloureux et tragique s'il en est. La jeune fille qui se confie au lecteur apparaît totalement dépossédée d'elle-même. Elle ne se nomme jamais et personne ne l'appelle par son nom. Elle n'existe pas, elle a été annulée par un père incestueux, elle est en deuil total d'elle-même. Elle s'interroge. « Et moi, où je suis? Moi, je suis en pièces détachées, je ne cohabite plus, je suis incompatible. » Et pourtant, Rochefort va arriver à transformer ce désagrégement en une ironie mélancolique. Témoin cet échange entre le père et la fille, et encore une fois, là, ma lecture ne vous rendra pas compte exactement du texte, mais gardez en tête que les répliques du père sont dites. Elles sont dites à la fille, qui est la victime de l'inceste, et ce qui vient après, c'est dans la tête du personnage féminin. Elle ne dit pas les paroles. Elle écoute son père et elle nous parle. Dans le fond, elle parle au lecteur, mais elle ne parle pas à son père. Alors, le père dit, « Dis-moi, qu'est-ce qui te reste à perdre? » C'est vrai, c'est déjà perdu, mes illusions. D'ailleurs, on n'y peut rien, ce qui est fait, on ne reviendra pas en arrière, puisqu'il le dit. Ou alors, il n'aurait pas fallu que tu commences du tout, que je commence. Nous sommes embarqués dans le même bateau tous les deux, que tu le veuilles ou non. Un à la barre et l'autre au fer. Si c'est ça qui te dérange les liens du sang, ces vieilles lunes, je peux te rassurer, c'est pratique courante dans les familles. Rassurer. Et personne ne s'en plaint. C'est vrai, on n'entend pas s'élever de partout des cris de douleur, les miens non plus. Après tout, est-ce que je suis ton vrai père? On n'est jamais sûr de ça. Alors voyez-vous, tout le roman est comme ça. Le roman est comme ça, la petite fille ne parle pas à son père. Alors, comment fait-on pour sourire quand même à la lecture d'un tel texte? D'où vient que la dérision opère, malgré la douleur? C'est peut-être, comme le suggère Georges Steiner, qu'on pleure en riant. Et y aurait-il, se demande-t-il, au cœur même de l'hilarité, une abyssale tristesse? Ou bien dans les pulsions de la tristesse, un humour, un éclat de rire caché? Fin de citation. C'est bien la tristesse, pourtant, celle des personnages comme celle des situations évoquées qui servent de terreau à l'humour mélancolique. Autre exemple, tiré d'un roman plus récent, « La petite et le vieux » de Marie-Renée Lavoie, roman qui représente le roman humoristique de femme que j'attendais depuis des années. Parce que ça, il faut dire que quand on fait de la recherche, puis on a un corpus, là, à un moment donné, on se dit, il y a un texte que j'aimerais avoir, que je ne suis pas capable d'écrire, que je n'écrirai jamais, mais que j'aimerais donc que quelqu'un écrive à ma place. Et Marie-Renée Lavoie l'a fait. Merci. Alors, dans ce passage-là, je vais vous lire, il est assez long, et c'est dommage parce que je n'ai pas des talents de lectrice. Je ne fais pas de théâtre, je devrais demander à Angela de le faire. Mais je vais vous résumer un peu la situation. La petite fille, qui est Camelot, elle est sauvée in extremis par Roger, un vieux voisin. Elle est sauvée d'un viol. Elle va distribuer ses journaux et elle se fait attaquer. Je me suis retrouvée couchée par terre, la tête appuyée dans l'angle d'un mur sans rien comprendre. Il se battait d'une main avec les sangles de ma poche de journaux que je portais en bandoulière et me tenait fermement les deux poignets de l'autre, une immense pince de fer capable de me souder les bras. De ma bouche, pas le moindre son. Je sentais pourtant qu'il exerçait sur moi une pression à me rompre les os. Si petit, oh, si petit. Mais ça ne me faisait pas mal. J'étais complètement accaparée par mon envie de ne pas mourir. Les cailloux s'incrustaient dans ma tête, qu'ils enfonçaient dans l'asphalte, sans me tirer la moindre douleur. C'est à peine si ce corps m'appartenait, me concernait. J'avais peur, infiniment peur, c'est tout. Je ne comprenais pas. Mais je n'aurais pas eu moins peur si j'avais compris. Puis l'homme a soudain basculé du côté et je me suis d'instinct recroquevillée en une boule compacte, comme l'araignée qui essaie de faire croire qu'elle est autre chose, un caillou, une mousse, en ramassant ses pattes, au moins le temps qu'on regarde ailleurs et qu'on la croit partie. Je voulais rester ainsi longtemps, très longtemps, je n'avais pas de chance à prendre. Il me fallait laisser quelques saisons passer pour plus de sûreté. De toute façon, mon corps m'avait fait un coup d'état, il n'y avait pas moyen d'en reprendre le contrôle. J'étais condamnée à mourir, ou pire, à vivre, fermée comme une chaise pliante. Une forme de suicide par implosion. On avait d'ailleurs commencé à me veiller, j'entendais qu'on mâchouillait des prières. Maudit Saint-Cybolac, d'os de Christ, Vierge Saint-Sacré. Le vieux grincheux, ça c'est le voisin, marmonnait en reprenant son souffle. Il m'a désuicidé. Cette voix éraillée qui écorchait tous les saints du ciel m'est apparue à ce moment si belle, si rassurante, que j'ai ravalé un sanglot de bonheur. L'histoire finira bien, Roger était là. J'ai pu progressivement me déballer et regarder ce qui se passait. Debout, mais cassé en deux, les mains sur les genoux, Roger cherchait son équilibre et une façon de ne pas exploser. C'est toujours plus dur une fois dégoupillé. Il forçait bien un peu la note sur l'essoufflement, mais ça lui évitait d'avoir à dire des choses que je ne tenais pas particulièrement à entendre. Heureusement, comme il avait encore un peu de religion, il pouvait donner l'impression de converser. De tabac, de colis, destination de Saint-Crème, de maudit Christophe, de Vera. Même dans une telle adversité, il limait ses jurons. Ma mère avait fait du bon travail. Quand la douleur s'est finalement autorisée quelques entrées dans les différentes parties de mon corps, mes yeux se sont entrouverts sur un troupeau de badauds qui s'avançaient doucement, hésitant comme des soldats sortis des tranchées après une longue nuit de combat. On venait de m'abîmer, de me froisser irréparablement, mais ça ne se voyait pas. Tout mon être, pulvérisé en fines particules dans l'air ambiant pendant l'éternité qu'avait duré l'attaque, s'était parfaitement reconstitué en tombant, montrant ça et là seulement quelques ecchymoses. J'étais en apparence une miraculée, ce qui a beaucoup plu aux gens qui me souriaient avec reconnaissance. Ça leur ferait une belle histoire qui finit bien pour les 20 prochaines années. C'est normal d'aimer les belles choses, ça change de la vie. Pour les dommages collatéraux, ceux que cacherait facilement mon corps indemne, je finirais bien par m'arranger. Il me restait statistiquement pas loin de 70 ans pour y arriver. Puis j'ai raconté 100 fois la même histoire, rencontré des tas de gens qui voulaient savoir des tas de choses que je ne connaissais pas et qui me donnaient l'impression d'en savoir plus que moi. Et puis j'ai pointé quelqu'un du doigt une fois, deux fois, trois fois, toujours le même. L'affaire suivrait son cours. On m'a donné 12 $ par journée d'école manquée. C'était la fin des haricots. Plus jeune, j'avais fait quelques découvertes qui n'avaient arraché qu'un bout de la naïveté, mais jamais rien d'aussi grave. Durant l'année de mes 6 ans, par exemple, j'avais, dans la même semaine, découvert tous les cadeaux du Père Noël entassés au fond du congélateur désaffecté et le petit Jésus, pas encore né, dans la boîte à fusible placée dans l'armoire au-dessus de la sécheuse. Cette fois, c'était bien différent. Je vivais une perte pure de naïveté non renouvelable. Alors, on voit ici une sorte de fatalité. J'avais peur, infiniment peur, c'est tout. Et qui dit fatalité, dit impuissance, une impuissance que vient transcender l'inflexion mélancomique. Je ne cherche pas à dire ici que les déterministes de la vie des femmes, qu'on retrouve souvent mis en humour dans leur littérature, sont nécessairement plus contraignants que ceux de la vie des hommes. Mais je dirais plutôt que la littérature des femmes nous les donne à voir comme des éléments, des situations déjà disqualifiées au départ. La femme trompée sait que son histoire est millénaire et par la même redondante et par la même pas intéressante. La jeune fille victime d'inceste, de viol, même chose. Ce sont des défaites à la limite prévisibles que la mélancolie arrive à transformer, ne serait-ce qu'un peu. Il y aura encore une multitude d'exemples pour illustrer comment les femmes ne sont jamais loin de la mélancolie. Par exemple, dans La gloire de Cassiodore, Monique Larue fait une satire de la vie des cégeps. Mais dans cette satire-là, en général, la satire, c'est une leçon. Les satiristes sont des gens qui savent de quoi ils parlent, qui donnent l'impression de détenir une vérité et qui vont dire « Qu'est-ce que vous avez à faire une société qui n'a pas d'allure comme ça? Voici ce qu'il faudrait faire pour que ce soit vivable. » Donc, il y a une assurance là-dedans. Monique Larue, elle, dans sa satire, il y a encore cette mélancolie-là qui fait une écriture mélancomique, comme si la satiriste féminine ne se donnait pas le pouvoir d'avoir une leçon aussi tranchée. C'est très intéressant de ce point de vue-là. Même chose avec Hélène Monette, avec Crime et chatouillement. Quand elle, dans son fameux texte, Un gars, une fille, un gars qui boit, une fille qui boit sans farge, tout le texte est fait sur ce motif-là, c'est-à-dire que chez les filles, les choses sont toujours pires. Cette notion de l'humour mélancolique, parce que reliée à la perte, m'amène en guise de conclusion à aborder très brièvement un phénomène relativement nouveau dans l'écriture des femmes, qu'on reconnaît sous le nom de « chick lit » et qu'on désigne en français par le terme « littérature aigre-douce », que je trouve particulièrement peu évocatrice, insignifiant comme expression, ça donne pas l'idée. Et je ne m'engagerai pas dans un débat sur la valeur esthétique de ces romans assez légers, parce qu'il y a des études fort intéressantes qui le font beaucoup mieux que moi. Je vous dis Caroline Smith, par exemple, et Antia Taylor. Mais je vais m'y arrêter deux secondes, parce que une des caractéristiques principales de la chick lit, c'est l'humour. Quand on fait de la chick lit, on fait nécessairement de l'humour de fille. Et je voulais savoir ce que toutes les lectrices qui se cachent derrière ces gros tirages-là ont à se mettre sous la dent comme humour. Et dans cette course au prince charmant, est-ce qu'on trouve l'idée du deuil comme moteur de la mélancolie? Est-ce qu'on trouve ces choses-là? Puisque le but est de divertir, de faire sourire, se risque-t-on quand même dans le parage des larmes? Je me disais que les héroïnes devaient bien avoir des états d'âme, puisque tous ces livres-là font au moins 350 pages, 450 chez Raphaël Germain. C'est de l'écriture, ça. Est-ce que l'humour de la chick lit pouvait lui conférer un intérêt qui m'avait échappé jusqu'à maintenant? Oui et non. Oui, parce que cette littérature, puis vous remarquez, là, je généralise d'une façon épouvantable, là, repose effectivement sur la notion de l'illusion perdue, de l'idéal inaccessible, de l'insatisfaction face à la réalité, mais jusqu'à temps qu'on trouve le bon gars. Après ça, ça marche. Donc, la question de la mélancolie, elle ne se pose pas dans les mêmes termes. Et ça ne peut pas tirer, même timidement, l'humour du côté du tragique. Et non, j'ai pas trouvé ce que je cherchais parce que cet humour relève presque systématiquement de l'auto-dénigrement, encore une fois, et vous savez ce que j'en pense. C'est la fille qui est inadéquate, qui s'acoquine avec des énergumènes qui ne la méritent pas, qui envoie de faux messages, qui ne se comprend plus. L'héroïne a beau revendiquer son indépendance d'esprit et de mouvement, elle ne se croit qu'à moitié. Et moi-même, je les crois qu'à moitié par ricochet. À la limite, ça c'est intéressant, c'est moi qui éprouvais dans un étrange renversement de la mélancolie, un sentiment de manque. Puisqu'il est dans son mandat éditorial de rester sur le mode léger, j'aurais voulu au moins que l'humour de ces romans-là soit libérateur, porteur d'une signification qui transcende son propos, qui soit fin. L'héroïne a atteint son but et l'a trouvé l'âme sœur. Je devrais me réjouir, mais je n'y arrive pas. Parce que toute l'entreprise, 450 pages, souvenez-vous, n'a rien écorché en moi. Je m'en suis sortie indemne. Et non, je ne suis pas masochiste, mais l'humour littéraire, pour moi, est repérable à cette façon de ne pas laisser de répit à son lecteur, à sa lectrice, à exiger de lui et d'elle qu'il s'arrête aux mots, à la construction de la pensée, à toutes ces choses qui distinguent la complicité du lecteur de la passivité du spectateur. Rire, je veux bien, qui n'aime pas rire, mais je préfère le rire quand même au rire à tout prix. Et s'il faut rire avec un pincement au cœur, tant pis, ou tant mieux. C'est peut-être en cela que pour les auteurs, le défi de l'humour littéraire est encore plus grand. Elles sont encore aujourd'hui plus souvent du côté de la perte et du deuil que du côté de la victoire. Et les femmes, comme le dit Judith Storasandor, ont de tout temps été vues comme des pleureuses de profession. Alors, il leur faut donc déployer des trésors de créativité pour me montrer que les larmes, leurs larmes et la mélancolie, leur mélancolie, peuvent conduire au sourire. Mais elles le font et c'est à nous de les découvrir. Merci. Ah, c'est vrai.
Oui, non, mais ça va pas tout de suite. Ah. Pas besoin de... En fait, je vais laisser la parole à qui veut bien la prendre. On a encore pour un 45 minutes maximum de discussion, donc on a amplement le temps pour parler.
J'aurais des questions. Je peux parler, il n'y a pas de problème. En fait, c'est plus pour vous parler des femmes dans l'humour. J'aimerais savoir au niveau de la proportion, comme vous dites qu'il y a moins de 10 femmes, mais combien d'hommes, parce que sinon, c'est toujours les mêmes qu'on voit de toute façon. Et côté proportion aussi, dans les écoles d'humour, est-ce qu'il y a énormément de femmes qui s'engagent dans l'école d'humour et finalement, il n'y en a aucune qui perce, ou même à l'école de l'humour, il n'y a presque aucune femme? Puis au Québec, par rapport ailleurs au Canada ou par rapport en Europe, est-ce que la proportion est la même? Ou, est-ce que vous savez là-dessus?
À l'École nationale de l'humour, en 2009, j'avais demandé les statistiques et il y avait deux filles qui s'étaient inscrites à l'École de l'humour et il y en a une qui s'était désistée. Et ils ont un total de 20 étudiants. Donc, il y avait un ratio de une fille pour 19 gars. Apparemment, cette année, selon Louise Richer, ils ont 4 filles et ils ont 16 gars. Ils ont toujours 20 étudiants. C'est le maximum. Donc, ça vous donne une idée, là. Et de l'École nationale d'humour, il y a Claudine Mercier et Cathy Gauthier qui sont sorties de là jusqu'à maintenant. Émilie Ouellette aussi, mais Émilie Ouellette, c'est la personne dont je vous ai parlé tantôt, mais elle est encore sur les scènes confidentielles. Donc, ça vous donne une idée. Par contre, pour tout ce qui est l'humour anglais, je ne peux pas vous donner de statistiques, je vous le dis honnêtement, mais il y a une grosse différence avec l'humour francophone, disons, là, je ne vais pas dire seulement québécois, mais franco-ontarien, et c'est le lieu de l'humour. Il y a au Canada anglais, comme il y a en France, des toutes petites salles. Autrement dit, ici, ça pourrait être un endroit idéal pour avoir des stand-up comiques à tous les lundis soirs, par exemple. Mais ça, la tradition, elle n'est pas faite au Québec. Peut-être dans la Franco-Ontarie, comme j'appelle toute la société franco-ontarienne, mais je pense pas. Peut-être qu'ils investissent les lieux anglophones, mais la grosse différence que déplorent les humoristes eux-mêmes, c'est surtout ça. Ce sont les plus petits lieux, confidentiels, comme je disais tantôt, mais qui conduisent ensuite aux scènes plus officielles. Et là, vous aviez une troisième question. En France, bien, c'est ça. En France, la proportion, moi, j'ai l'impression qu'il y en a plus pour une raison bête, c'est que quand j'ai la chance d'y aller, je vais écouter des filles. Les gars, je me dis, je vais les voir à la télévision, alors je vais voir au point virgule, il y a toujours une fille humoriste, et j'y vais. Donc, j'ai l'impression qu'il y en a plus, mais il n'y en a pas tant que ça. Et je reviens à votre première question. C'est sûr que... il y a une espèce de saturation d'humour au Québec et ça touche aussi les hommes. Autrement dit, il y a des gens qu'on ne reverra plus, des filles qu'on ne reverra plus. Il y a de plus en plus de gars, malheureusement, qui subissent aussi ce sort-là. Mais ils sont encore, je dirais, dans une proportion de 4 pour 1.
Merci à vous. Félicitations. J'ai beaucoup appris et beaucoup aimé tout ce que tu nous as donné généreusement. Sans du tout. Apporter des contre-exemples, c'est pas du tout mon domaine, mais très modestement, dans mes cours en création à l'université, je constate que souvent les textes en création qui portent leur humour, c'est fait par des femmes, enfin, sans exagérer. Dans le cours actuel, j'ai une étudiante qui vraiment, ses textes en création portent beaucoup sur des aspects humoristiques, qui sont d'ailleurs très pertinents. Voilà. Et dans un autre cours que j'avais donné, c'était le cas avec une autre étudiante.
Alors, dans ça, là, tu me donnes leur nom. Je veux devenir agent, moi, impresario.
C'est probablement l'exception qui confirme la règle. Mais bon.
Mais ça prouve que les femmes ont de l'humour.
Tout à fait, et de qualité. Mm-hmm. Je dirais de qualité vraiment, c'est des textes très intéressants. Mais encore une fois, c'est certainement des exceptions. Peut-être, et là je te pose une question, serait-il possible qu'on soit dans un changement de paradigme? Serait-il possible qu'aujourd'hui, dans cette période de l'extrême contemporain, du 21e, dans lequel nous sommes, est-ce que toute cette recherche savoureuse et très intéressante dont tu nous fais part, est-ce que ça ferait partie d'un paradigme qui appartiendrait un petit peu au 20e? Et est-ce qu'il y aurait, je pose vraiment une question là-dessus, est-ce qu'on aurait affaire à un autre type d'émergence là? Je pose la question. Concomitante à cette question, mm-hmm. J'ai une autre question de type, sommes-là tombés dans l'essentialisme? J'irai dans le sens suivant là. Je réfléchissais par rapport à ce que je disais au début, c'est très intéressant. Je me disais en effet, juste, etc. Mais est-ce que, quelque part, ce n'est pas sur le modèle de l'humour masculin que l'on réagit? Je veux dire, est-ce que le phénomène ne serait-il pas un phénomène d'aliénation dans le sens que c'est humour féminin qui existe bel et bien, dont je verrai des preuves dans mes modestes cours en création, serait-il occulté parce qu'il y a cette sorte d'institutionnalisation d'un humour qui est masculin, qui est axé, qui est stéréotypé, qui est accepté par la société, et donc une autre forme d'humour alternatif, parallèle, ne pouvant pas avoir lieu, doit, lorsqu'il se manifeste, coller à l'humour masculin. Voici ce que je veux dire.
Mm-hmm. Je reviens au paradigme, avant de l'oublier, parce que la question nous amène loin. La première partie de ta question, le paradigme, je dirais que l'hyper-contemporain et la mouvance dont tu parles, c'est sûr que ça raccroche l'humour du côté des études plus culturelles que littéraires. Et c'est peut-être un des problèmes de l'humour, parce que pour expliquer l'humour littéraire, il faut passer par l'humour sur scène, ou en tout cas pour mesurer la différence, ce qui fait que on trahit un peu la littérature jusqu'à un certain point. Mais pour parler d'une mouvance générale, d'un changement de paradigme, je dirais que j'en suis pas convaincue parce que les études sur l'humour sont encore victimes de certaines résistances universitaire, de certains préjugés universitaires aussi. Ça, c'est sûr. Moi, je travaille sur l'humour. Tout le monde sait ce que c'est que l'humour, alors finalement, tout le monde sait ce que c'est, puis tout le monde pourrait écrire ce que j'écris. Oui, là, je caricature un peu, mais c'est un peu ça, là, vois-tu? Parce que tout le monde sait ce que c'est écrire, tout le monde sait. Mais quand on arrive déjà avec les distinctions humour, ironie, ah là, c'est autre chose, le rapport avec le rire, le comique, ah, ça, c'est autre chose. Mais d'une façon générale, je pense que chaque personne pense savoir les tenants et les aboutissants de l'humour. Ce qui fait que, d'un point de vue universitaire, on sent encore une résistance par rapport à ce champ-là. Et je le verrais plus dans les champs des études culturelles, plus spécifiquement que dans le champ des études littéraires, mais moi, c'est le texte littéraire qui m'intéresse, entre autres choses. Donc, ce paradigme dont tu parlais, moi, je le contourne. Pour ce qui est de la deuxième partie de ta question, la question de l'humour masculin qui se pose en modèle contre lequel les femmes peuvent réagir, je comprends bien?
Dans quelle mesure il occulte la possibilité d'un humour autre que celui-là? Parce qu'on part de la base qu'il n'y aurait qu'un seul type d'humour. Moi, personnellement, je m'ennuie beaucoup avec l'humour masculin. Et je suis plutôt sensible au contraire. Ça m'arrive souvent, d'ailleurs, je préfère la plupart du temps parler plus avec des femmes qu'avec des hommes. Ça, c'est mon problème. Mais je rigole beaucoup plus avec des femmes qu'avec des hommes. Donc, je me dis, dans quelle mesure il y a un humour là qui est occupé, parce que c'est institutionnalisé.
Mais c'est le mot clé, c'est le mot institutionnalisé, parce qu'il y a un humoriste à un moment donné qui racontait, puis moi, je trouvais ça épouvantable. Quand quelqu'un est en train de percer, là, un étudiant qui sort de l'école de l'humour et tout ça, il y a une équipe qui est chargée de penser et de figurer dans quel créneau il pourrait aller. Autrement dit, moi j'ai déjà dit à Louise Richer en blague, les femmes vieillissantes, là, de 45 ans et plus, là, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Je pourrais aller faire carrière. Moi, une fois que j'ai pris ma retraite de professeur d'université, elle a dit, sais-tu, il faudrait y penser. Parce que c'est un créneau qui est encore inoccupé. Les mamies sur scène, il n'y en a pas. Il n'y en a pas encore. Donc, je blague à peu près, presque pas. Dans le fond, je suis un petit peu sérieuse. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Mais il y a vraiment une étude de créneau. Alors, ce qui dit créneau, ça veut dire qu'il y a une équipe qui est payée pour penser à la configuration générale de l'humour au Québec. Je veux dire, je parle pour le Québec, je ne peux pas parler pour la France, mais à la configuration générale de ce dont doit avoir l'air les spectacles d'humour. Alors, à partir de ce moment-là, la question de l'humour masculin se pose, puisqu'il y a beaucoup plus d'hommes sur les scènes officielles, comme vous, on peut le constater. Mais jusqu'à quel point est-ce que les femmes se moulent à ça? Ça, je dirais que c'est dangereux parce que là, c'est comme si on disait, il y a un humour qui est universel et il y a l'humour des femmes, ce que je disais en entrée. Mais en même temps, cet humour-là des femmes est obligé de se tailler une place d'abord sur une scène où il va avoir un humour universel, c'est-à-dire masculin, tu comprends, pour ensuite s'imposer. Et ça, ça revient à la question que madame posait. Si on va vers les humoristes canadiennes-anglaises, elles vont beaucoup plus loin dans tout ce qui est fait féminin. La physiologie féminine et tout ça, les problèmes menstruels, l'amnésie, il n'y a aucun tabou, beaucoup plus que les humoristes québécoises. Est-ce que c'est la force du nombre qui fait qu'on a l'impression qu'elles vont plus loin? Peut-être, parce qu'elles l'ont, la force du nombre, bien sûr, hein. Proportion francophone-anglophone dans le pays, elle est ce qu'on sait. Donc, ça, il y a un mouvement qui se fait, ça prend du temps, mais moi, quand je vois des femmes comme, enfin, Nabila Ben Youssef se hisser sur la scène du Théâtre Saint-Denis, et là, imposer vraiment quelque chose de très sensuel, très osé par rapport à la culture dont elle émane, là, je me dis, là, on est en train d'ouvrir des portes et on est en train d'entendre autre chose, enfin. Est-ce que j'ai répondu à ta question?
Merci beaucoup. Et ça me semble pervers, cette institutionnalisation-là. Comme vous disiez tout à l'heure, j'ai noté ça parce que je trouvais que c'était génial. Il faut savoir que quelqu'un est drôle avant de le trouver drôle, mais c'est exactement ça. Au final, on divise l'humour en graphique.
Ouais.
Avec des points de tarte.
Oui, c'est à peu près ça.
C'est assez pervers, puis ça me fait penser à une humoriste, écrivaine, comédienne des États-Unis. Là, il y a toute la question de l'humour à la télé qu'on n'a pas abordée, mais Tina Fey, qui a commencé avec l'impro, Saturday Night Live, puis Dirty Rock, maintenant, qui a écrit une espèce de recueil de mémoire recueil autobiographique qui est paru récemment. Elle disait dans ce recueil-là, entre autres choses, que le jour où une femme va pouvoir faire une blague scatologique sans avoir de propos féministes ou une blague sur le caca, là, tout simplement une blague de merde, ça va être le jour où les femmes vont avoir triomphé finalement, parce qu'elles n'auront pas besoin de justifier le fait qu'elle est une femme, qu'elle est drôle quand même. C'est le jour où la femme peut faire la même blague de crotte que le gars, ben, ça va être... On va avoir atteint un équilibre, mais ça serait impossible avec dans le milieu qui est très compartimenté.
Mais j'ai envie de vous raconter une anecdote. À un moment donné, je vais vous la raconter d'ailleurs, je n'ai pas juste envie. À un moment donné, on m'avait demandé de diriger un numéro de la revue Arcade, d'écriture au féminin. Alors, on m'avait donné le champ libre, alors j'avais dit, ça va s'appeler « Le dernier tabou ». Alors là, j'ai contacté, ça fonctionne comme ça, on contacte des écrivaines et on leur demande, on prépare un formulaire, un énoncé, puis on leur dit, accepteriez-vous de participer à mon numéro? Alors moi, j'avais dit, je veux que vous me parliez de toutes sortes d'affaires, de caca, de crottes de nez, n'importe quoi. Soyez vulgaire, soyez outrancière, n'importe quoi. Brassez la cage. Alors là, j'avais des réponses, des choses extraordinaires, et même qu'il y avait une féministe dont je tairai le nom, qui avait dit « Ah, moi, j'aurais le goût de te parler d'une féministe, mettons, qui aimerait ça se faire dominer sexuellement. » Puis il y en avait une autre qui dit « Moi, j'ai une perversion, je pourrais en parler. » Là, je me dis « Ah, ça va être extraordinaire, mais ça va être extraordinaire, ça va être extraordinaire. » Bien, une à une, ces femmes-là se sont désistées. Parce que là, c'était trop engageant. Le dernier tabou, là, c'est elle qui se l'était mis à elle-même, le dernier tabou. Elle s'était mis des limites, ces femmes-là. C'était clairement comme ça. Alors qu'elles avaient le champ libre, elles ont dit « Non, il y a un certain degré que je ne dépasse pas. » Donc, quand on parle justement de caca, tout ça, c'est ce que j'appelle l'humour de salle de bain, là. J'avais une hypothèse là-dessus. C'est une hypothèse qui m'a été suggérée par une femme qui était mère depuis peu longtemps. Elle dit « Lucie, tu sais, quand on a les mains dedans à longueur de journée, ça nous tente pas d'en parler pour faire rire le monde. » Je me dis, bon, peut-être que c'est ça. C'est que dans ce rapport-là, il y a des barrières, si on veut, mais il y a encore des tabous. Ça, c'en est un. Mon humour de salle de bain, même, il y avait un exemple, alors que je faisais des recherches il y a quelques années, il y avait une pièce de théâtre qui avait été présentée à Montréal qui s'appelait WC. WC, là. Et c'était quatre femmes dans une salle de bain. Alors là, je me suis dit, bon, on va se passer des affaires. Mais non, le seul personnage qui parle de caca, c'est le gars qui vient faire le ménage. C'est tout, le reste, c'était de la danse. C'était très intéressant. Évidemment, la pièce elle-même était intéressante, était assez audacieuse, mais d'un point de vue symbolique, je me disais, ben non, c'est pas encore aujourd'hui qu'on va entendre parler de caca. Par les femmes, je veux dire.
Il y en avait une improvisatrice, Sophie Caron, il y a une dizaine d'années, elle était très dans scatologie et puis elle se gênait pas. Puis c'en était une qui était masculine au niveau de son humour. Donc, il y en a eu, je sais pas... qu'est-ce qu'il y a là, mais si je peux faire un commentaire là-dessus en improvisation, je suis un peu pour ça, puis j'en fais aussi, puis ça me fait penser à l'humour alternatif. Ce que j'ai remarqué en improvisation, comme à la Ligue universitaire, il y a une femme par 7 gars, mais à chaque fois qu'on essaye de monter quelque chose, parce qu'on est plus lent pour monter l'humour, parce que c'est plus complexe, tandis que l'humour, c'est plus, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme des punchs, alors on se fait tout le temps couper, on n'arrive jamais à... Donc, deux personnes humoristes, une femme et un homme, la femme n'arrive jamais à builder son punch parce que ça prend plus de temps, puis on se fait un peu... En tout cas, ça, c'est l'expérience personnelle que...
Mais vous savez que Marie-Vonne Cyr, elle dirige une équipe d'improvisation dans un cégep au Québec, et elle a changé le règlement. Elle oblige qu'il y ait un nombre égal de gars et de filles dans l'improvisation. Sans ça, ils n'improvisent pas. Justement parce que... Et c'est en soi, c'est féminin. Vous savez, c'est comme un peu les femmes qui voient une offre d'emploi. Si elles pensent qu'elles ne sont pas totalement qualifiées pour l'emploi, elles ne vont pas postuler. Le gars, lui, peu importe qu'il y ait les compétences ou pas, lui, il se dit, ça va être au patron l'odieux de me dire, non, tu n'es pas qualifiée. Alors, c'est comme si les femmes se disqualifiaient elles-mêmes. Oh non, je suis pas capable de faire de l'impro. Elles y vont même pas. Remarquez que je les trouve très courageuses. Moi, je ne serais pas capable de faire de l'impro, ça c'est sûr. Mais il reste qu'il y a de ça aussi. Elle s'extrait. Non?
C'est parce que c'est ce que vous venez de dire, finalement.
Quoi?
Je suis pas capable de faire de
l'impro. C'est vrai?
Tu viens de dire ce que tu viens de dire.
Je la comprends pas. Excusez-moi.
Inscrivez-vous même si vous pensez que vous n'avez pas les compétences.
Ah, OK. Ah, merci. Merci beaucoup. Merci. C'est vrai, ils ont peut-être besoin de quelqu'un comme moi dans le créneau, on ne sait pas, ça leur en prend. Mais c'est vrai que je ne l'avais pas comprise, je suis fatiguée, excusez-moi. L'adrénaline est redescendue.
Pour revenir à la marde, moi, j'ai le bonheur, tu connais Julie, une artiste politique, tu t'en souviens, elle était une de tes étudiantes aussi.
C'est d'elle que je parlais tantôt.
Oui, ben,
l'étudiante qui faisait les blagues, là. Donc, toi, t'étais trop timide, toi. T'étais trop timide.
Mais justement, elle, je veux dire, c'était exceptionnel. Elle se sentirait jamais. Puis c'était super de la voir dans son entourage parce qu'elle n'a pas de filtre, justement. Puis on se fait souvent la réflexion de. Tu sais, parfois, elle dit des choses, puis il y a des gars, mais ils nous connaissent. Ils savent qu'on est capable d'en dire. Mais est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à la séduction, toujours? Aujourd'hui, on est vraiment dans une époque où les femmes doivent. Non seulement être mince, puis belle, puis etc., mais toujours dans la séduction, puis parler de marde, c'est pas séduisant.
Non, c'est vulgaire.
C'est ça, puis là, ça fait, ah oh, ouais, mais ça fait pas féminin. Puis là, on la voit autrement, je sais pas si il y a peut-être quelque chose.
Les hommes non plus sont pas séduisants quand ils parlent de
marde. Mais ils font rire, donc là, on fait, ah. Oh,
ouais.
Je me demandais aussi, j'avais une question par rapport, je sais pas s'il y a eu des études par rapport aux classes sociales, est-ce que les femmes qui sont plus éduquées vont plus vont plus faire de l'humour en public ou est-ce qu'elles vont être plus drôles? Parce que je me disais peut-être, justement, il y a des femmes très, très, très drôles là, qui vont... Je ne sais pas si le fait d'avoir plus d'estime, peut-être, ça fait en sorte qu'on va plus...
Honnêtement, j'ai pas vu d'études. Ouais, moi, j'ai pas vu d'études là-dessus, mais c'est drôle, je penserais plutôt l'inverse, moi. Que les femmes qui ont une éducation sont un peu enfermées dans leur éducation, alors que les autres ont cette espèce de laisser-aller, je sais pas. Mais je le dis comme je le pense, comme ça, là, mais non, c'est un fait que les études, moi, que j'ai épluchées, ne tenaient pas compte de ça. Puis pourtant, c'est très, très, très important parce que on se rend compte, quand on va avoir des spectacles d'humour, que les publics ne sont pas les mêmes selon l'humoriste qu'on va voir. Ça a l'air quasiment d'une évidence, là, mais il faut le voir. Faut vraiment avoir une espèce d'hilaromètre, là, ou prendre des notes comme moi je le fais là, pour se rendre compte de ça. Le public chez Nabila Ben Youssef n'était pas du tout le même que chez Lise Dion. C'est pas juste par le nombre, là, parce qu'il y en a une qui était dans le Grand Saint-Denis et l'autre dans le Petit Saint-Denis, mais c'était pas du tout le même type de personne. Ça, c'est clair. Classe sociale, je sais pas, mais en tout cas, politiquement, c'était différent.
Est-ce que dans l'écriture plus contemporaine, on a aussi des hommes qui vont utiliser, par exemple, des personnages féminins drôles ou, je sais plus c'est quoi le mot, le mélancolique.
Mélancolique?
Oui, c'est ça, mélancolique. Est-ce qu'il y a ça aussi plus réservé vraiment à l'écriture féminine?
Non, il y en a dans l'écriture des hommes, des femmes comiques. Guillaume Vigneault, je me souviens plus du nom, j'ai oublié le nom du personnage, mais en tout cas, il y en a une femme qui est pas mal comique, qui a des beaux personnages de femmes aussi, des femmes qui ont le sens de la repartie et tout ça. Là. Non, c'est pas... La différence, c'est que on les lit, ces textes-là. On lit plus les hommes que les femmes encore maintenant. Alors, il y a des choses qui nous passent sous le nez, mais qu'on ne voit pas à cause de ça. C'est simplement une question de prendre un contact, ouvrir le livre et se dire, ben tiens, je pensais pas que ça pouvait être drôle, ou même pas juste drôle, mais là, comique, je pensais pas qu'il pouvait avoir ce sourire-là qui est proche des larmes, mais il est là. Mais il y en a chez les hommes aussi. Sauf que c'est différent. La femme, elle va être mélancolique, pour d'autres raisons qui sont souvent reliées à ses déterminismes de vie de femme. Et c'est ça, au départ, dont je disais que c'était un peu disqualifié. Ça nous intéresse pas, les affaires de femmes. Évidemment, moi, ça m'intéresse, là, mais dans l'absolu, ça ne nous intéresse pas. C'est dans ce sens-là, je veux dire, mais c'est sûr qu'il y en a aussi dans l'écriture des hommes.
Dernière intervention de ma part. Et concernant le... Je me rappelle encore les périodes de migrants qui étaient là. Je pensais à un auteur comme Flora Balzano. J'avais beaucoup aimé son récit Soigne ta chute.
Oui.
Je trouve qu'elle est là très décapant. Et bon, il y a Flora Balzano, malheureusement, elle n'écrit plus. Mais dans tes recherches, est-ce que cette parole dite migrante au niveau des voix féminines, est-ce qu'on peut dire qu'il y a de ce côté-là des ouvertures par rapport à l'humour?
Non, Flora Balzano, à mon sens, à moi, c'était un des rares exemples. Ouais. Ou bien Nabila Ben Youssef, dont je parlais sur la scène, par exemple. Mais dans la littérature, moi, j'en ai pas vu. J'ai pas tout lu. J'ai pas tout lu la littérature migrante, mais j'ai lu pas mal d'écriture des femmes. Il y a la Québécoise de Régine Robin qui est un peu, mais autrement, non, pas tant que ça. Non. Ça va être plus concentré sur, et c'est pas à toi que je vais apprendre ça, là, sur la question de la filiation et de la nouvelle génération qui est entre les valeurs de la culture de départ et les valeurs de la culture d'arrivée et tout ça, mais... De l'humour par rapport à ça, la distance, parce que ça prend une distance, je ne l'ai pas vu souvent, à part chez Flora Balzano. Et un peu d'ironie, ben en fait, beaucoup d'ironie triste chez Monique Bosco, dans Un amour maladroit, mais ça remonte pas mal, ça. Mais ça, on est dans l'ironie. Mais il faudrait que je le relise maintenant, c'est drôle, tu me fais penser. À la lumière de ça, je pense qu'on pourrait l'entrer, ce livre-là en particulier, pas le reste de sa production, mais ce livre-là, on pourrait l'entrer dans la mélancomédie, les mélancomiques.
Je me permets d'intervenir encore, parce qu'il y a tellement de choses qui m'ont intéressé dans votre conférence. Vous avez parlé de plein d'enjeux psychologiques, historiques, sociologiques, par rapport aux femmes dans le milieu de l'humour, pour dire au final que tous ces enjeux-là étaient extérieurs au talent. Même chose en littérature, j'ai l'impression.
Ouais.
Peut-être, on va en parler. Mais ça me fait, ça me fait penser. En fait, ça m'amène à réfléchir à la réception, en fait, qui est aussi extérieure au talent, finalement. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi. Donc, l'humour se construit beaucoup. Tu parles, Moi aussi, je pense que je commence à être fatigué. L'humour se construit beaucoup, je commence ma phrase, par la lecture qu'on en fait d'un roman. En fait, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des choses qui font rire une personne qui ne font pas rire l'autre. Mmh. Par exemple, parce que ça fait rire tout le monde, les blagues de merde, il y en a quand même qui peuvent trouver que c'est plus ou moins drôle, moins approprié, je ne sais pas trop. Il y a certaines choses qui nous font rire plus que d'autres. Et puis, bon, vous avez dit une phrase qui était magnifique. Est-ce que c'est encore drôle s'il faut travailler pour rire? J'ai beaucoup aimé ça, de vous entendre prononcer poser cette question-là. En fait, il n'y a pas de réponse, mais au final, ce que ça dit, c'est que le texte soit drôle ou pas, il faut qu'on le perçoive comme étant drôle pour qu'on le trouve drôle. Comme tout à l'heure, mais si on ne sait pas que c'est supposé être drôle, si on ne sait pas que les femmes peuvent être drôles, comment est-ce qu'on peut rire? Il y a comme un cercle vicieux, encore une fois.
Oui, absolument, mais c'est pour ça que des fois, je me dis que le texte littéraire, c'est vraiment une gageure parce que j'ai pas le contact avec l'auteur. Le pacte de lecture, il reste écrit, c'est un pacte à l'écrit, alors que l'humoriste, c'est clair, il est là pour me faire rire ou elle est là pour me faire rire. Si je ris pas, là, c'est mon problème parce que je suis dans une salle où je devrais normalement rire. Alors que pour le rapport avec le texte, là, c'est autre chose. Puis, c'est pour ça aussi que l'humour littéraire, je pense qu'on en a plus souvent qu'on pense sous les yeux, mais on le voit pas. Puis je veux pas dire, évidemment, quand je parle d'humour littéraire, il faut faire attention. Je disais que c'est pas compatible avec la claque sur les cuisses. Là, on se tape pas sur les cuisses de rire, puis on part pas à rire tout. Mais il y a cette espèce de sourire-là, juste dans les allitérations, quelquefois, les figures de style, les images qui prennent place dans le texte, puis qu'on s'imagine, on se représente la scène. Donc ça, c'est sûr que ça fait travailler, mais en même temps... Je prends par exemple Raymond DeVos. C'est fatigant d'écouter Raymond DeVos, là. Parce que quand on écoute ses monologues, ses anciens monologues, il y a des images, il nous amène à quelque part. Puis là, il construit des métaphores, il joue avec les mots, là. Alors, on n'a pas le temps, on ne se tape pas sur les cuisses, on n'a pas le temps. On est trop occupé à écouter. Puis ça, je vais vous donner, un exemple. Dans le spectacle de Lise Dion, que j'ai vu, qui m'a déçu, dans les 40 minutes où elle n'a pas parlé de sa grosseur, il y avait le retour d'Aburka et il y avait un sketch très bien senti sur la femme vieillissante qui est dans le foyer là, et que ses enfants ne vont pas voir. Puis elle dit carrément, elle dit « Ceux-là, parmi les gens là, qui ont encore de la visite, c'est parce qu'il leur reste de l'argent. Moi, j'en ai plus. On m'en dit, les gens ne viennent plus me voir, c'est pas payant. » Bon, mais ça, là, ces moments-là que moi, je trouvais fort, parce que là, il y avait tout un travail social, il y avait une critique en arrière de ça et tout, les gens riaient beaucoup moins. Beaucoup, beaucoup moins. C'était pas à ce temps de terre, là. La dame à côté de moi, j'avais peur pour elle. Là. Je me suis dit, le cœur va pas tenir, ça n'a pas de bon sens. Elle était roulée à terre. Mais pendant ces deux sketchs-là, ça paraissait que là, il fallait que ça tourne dans la tête, comme ça. Puis c'est pas pour rien qu'à un moment donné, moi, j'avais trouvé ça tellement drôle. Il y avait à la télévision, vous savez, les galas de l'humour et tout ça, ce soir-là, c'était marqué spécial humour songé. Autrement dit, ce soir-là, on avait des sketchs où là, il était question de quelque chose qui allait nous faire réfléchir. Alors, pour être quand on est rendu obligé de spécifier que là, ça va être de l'humour songé, là, ça sera pas facile, là. Faites attention, là, écoutez bien, là. C'est parce qu'on a perdu de vue, je trouve, moi, l'essence même de l'humour. L'humour, c'est intelligent, par définition. Alors, l'intelligence, c'est pas reposant. Je sais pas si ça répond à votre question.
Ce politiquement correct qui nous contamine, qui nous connaît. Parce que là, rire à partir des sujets relativement tabous, j'ai vu ça. Et là, tout à l'heure, tu parlais de la société anglo-saxonne. Parfois, leur humour est coupé par le politiquement correct qui va déterminer géographie, jusqu'où on peut aller. Alors qu'il y a d'autres cultures
non seulement en Europe, mais en Amérique latine, par exemple, nous, de ce côté-là, ils sont beaucoup plus explosifs. Hein. Donc, est-ce qu'il n'y a pas cet élément-là?
Moi, je vais te dire, Daniel, vraiment, là, je pense que le politically correct fait bien l'affaire des humoristes. Parce que c'est beaucoup plus impliquant de prendre des risques sur scène, risquer de s'aliéner une partie ou même tout l'auditoire, c'est très, 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 très dangereux pour l'humoriste. Parce que l'humoriste, les gens font de l'humour parce qu'ils veulent être aimés. Hein. C'est pas autre chose, ça, c'est clair, clair, clair. Alors, moi, quand on me dit, ah, oh, ben, c'est effrayant, là, ce type de farce-là, là, ça, on pourrait plus le faire. Ça, j'entends ça à l'Observatoire de l'humour à Montréal, à toutes les réunions, on dit, ah, oh, mais ça, on pourrait pas aller plus loin que ça. Moi, je le crois pas. Je ne le crois pas. C'est prendre des l'auditoire pour des gens qui n'ont pas l'esprit ouvert, qui sont prêts à critiquer. Je pense qu'il y a une paresse du côté des humoristes. Bon, ils n'aimeraient pas ça m'entendre, mais de toute façon, ils ont leur auditoire plein, eux autres, c'est pas grave. Là, je peux dire ce que je veux, mais moi, je pense que c'est très pratique, le politiquement correct. S'il y a le dos très large, et ça fait l'affaire de tout le monde de dire, oh, ben, je ne peux pas aller plus loin que ça. Mon public ne me suivra pas. Je le crois pas, ça. Je suis très, très sceptique. Ouais. Et les sceptiques seront confondus.
Non. Écoute, tu apportes de l'eau à notre village. Je te vois sur parole.
Mais c'est dérangeant ce que vous venez de dire, parce que, ben, pas personnellement, mais ça rapproche l'humour d'une véritable industrie, finalement. Comme celle de la musique, des ratios, on va donner aux spectateurs ce qu'on pense qu'ils veulent entendre. Donc, il y a des musiques.
Mais... ça peut pas être plus clair. Il y a une association qui s'appelle l'Association des professionnels de l'industrie de l'humour. C'est clair comme ça. Une industrie, faut que ça rapporte. Une industrie ne prend pas de risques inutiles.
La littérature serait peut-être, dans ce cas-là, le dernier rempart des humoristes.
Ouais.
Absolument. Si vous êtes d'accord, absolument. Ouais. Parce que là, il y a une sorte d'instrumentalisation de l'humour. Il y a une commercialisation de l'humour. Ça devient une marchandise.
Oui. Une marchandise adaptée aussi, là. Ciblée, comme vous disiez, là, la tarte coupée en morceaux, là. Ouais. Mais je ne suis pas défaitiste pour autant, parce que justement, nous autres, on a la position de repli de l'humour littéraire. Donc, ça, c'est bien. On sait que là, on peut tout dire, parce que il se dit pas mal de choses dans le contact privé qu'on a quand on ouvre un livre comme ça, là. Non, c'est ça. On peut dire ce qu'on veut. Mais c'est vrai, les humoristes, hommes et femmes d'ailleurs, vont beaucoup plus loin dans les livres que sur scène.
Moi, j'ai pris plein de notes, j'ai envie qu'on continue à discuter.
Mais vous savez, on peut continuer à discuter, vous et moi, pour obliger tout le monde à écouter si le monde veut s'en aller.
Mais je vais vous poser une dernière question dans ce cas-là. On revient encore à ce que c'est l'humour, finalement. Vous avez dit l'humour, au départ, c'est intelligent, c'est une esprit, c'est pas nécessairement facile. Puis, vous avez parlé, bon, le titre de votre conférence, c'était les mélancomiques, donc cette présence, une dimension triste ou mélancolique dans l'humour. Vous avez dit tout à l'heure que peut-être que dans la tristesse, il y avait du rire, et que dans le rire, il y avait la tristesse quand même, tout ça. Et ça m'a fait tout de suite penser... immédiatement, par exemple, à la pièce de théâtre Les Voisins de Claude Bissaya, qui est une tristesse infinie, en fait, qui est extrêmement drôle en même temps. Je trouve ça très intéressant, cette dualité-là, qui serait peut-être, je ne sais pas, à la base de l'humour, peut-être littéraire ou l'humour en général.
Ouais. Mais c'est parce que les Voisins reposent aussi beaucoup sur une mécanique de l'absurde. Hein. Puis ça, c'est intéressant parce que dans la littérature des femmes, j'en ai pas vu beaucoup. Il y a un côté très pragmatique à l'humour des femmes. Je dis pas qu'il n'y en a pas du tout, mais l'humour absurde, il n'y en a pas beaucoup. Donc, pourquoi est-ce que c'est plus volontiers utilisé par les hommes? Je ne sais pas, c'est peut-être parce que justement l'absurde nous amène vers un ailleurs où on sait que les gens vont nous suivre parce qu'ils sont habitués à notre humour. Je ne sais pas. Ça, c'est une bonne question, mais effectivement, les Voisins, c'est très, très triste. Ça, c'est... On rit, mais on rit pareil, c'est ça. On rit pas à tout prix, on rit quand même. Là. Ouais.
Non, mais c'est intéressant, cet effort d'abstraction-là qui ne serait pas nécessairement fait par les femmes humoristes. Pas qu'elles ne veulent pas, mais je ne sais pas, c'est quelque chose qui est est intéressant à observer.
Là-dedans, je pense que celle qui va le plus loin, c'est Suzanne Jacob. Vraiment. Dans la question de l'absurde, là, parce que pas nécessairement dans la construction de ces textes, là, mais parce qu'on est dedans présentement dans Suzanne Jacob, dans mon cours, il y a ce recours-là. Je pense que c'est une des vraiment rares. C'est-à-dire jouer un peu avec les significations de phrases pour qu'on se dise, mais qu'est-ce que je viens de lire là? Ça marche pas là. Il faut que je recommence à lire pour saisir le choc qu'il y a en arrière de cette phrase-là.
Est-ce que t'as observé des textes au théâtre aussi? Parce que le théâtre, est-ce que ce serait dans le fond le croisement entre une certaine forme de stand-up, en fait de performance et le littéraire?
Il y en a de l'humour sur scène, mais en théâtre. Sauf que c'est des pièces qui sont pas très jouées. Parce que j'avais fait un article là-dessus, là, puis j'avais relevé des titres. Il y en avait un, c'est « La trampoline est à deux pieds du plafond ». Là, j'ai oublié l'auteur, mais oui, il y avait des choses comme ça. Puis surtout dans les années, il faut dire qu'au Québec, c'est la décennie des années 70 hein, qui a été marquée par le théâtre. Et là, il y en avait, puis les filles écrivaient, puis c'était des collectifs qui naissaient de quasi spontanément, puis qui se défaisaient tout de suite après. Mais il y avait des affaires comme le théâtre de ma blonde est au bout, présente maudit que mon chum est plate, puis des affaires comme ça, ça n'avait pas de bon sens. C'était des pièces ponctuelles et c'était bien. Là. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire ça, mais c'est des pièces qui sont pas jouées, des fois qui sont au centre, comment ça s'appelle, le CEAD, le Centre d'essai des auteurs dramatiques. Là, on a ça sur les tablettes, ou bien si c'est publié, c'est pas nécessairement joué. Il y a Marie Gagné ou Gagnon. Elle, à un moment donné, a fait une parodie d'Aurore, l'enfant martyr, ou quelque chose comme ça. Là, c'est vague parce que ça fait un petit bout de temps. Mais effectivement, il y en a eu. Mais comme sur les scènes, on a le même problème. Les auteurs, et là, il y a eu des statistiques l'année passée qui sont sorties. Combien il y a d'œuvres de femmes qui sont jouées par rapport aux œuvres d'hommes? On est encore dans deux poids, deux mesures. Là. Mais effectivement, il y en a. Puis ça serait un moyen terme entre les deux. Mais en même temps, des fois, je me dis, c'est dommage parce que si je prends, par exemple, Carole Fréchette, elle avait fait une pièce, ça c'est mon dada féministe, là. Elle avait fait une pièce, Les Séjours de Simon Labrosse. Et dans cette pièce-là, Simon Labrosse, il se trouve des emplois un peu incongrus, comme par exemple finisseur de phrases. Vous savez, tout le monde, à un moment donné, on ne finit pas nos phrases, lui dit, moi, ça va être ma job, ça, je vais finir les phrases. Puis ce que je trouvais d'un point de vue féministe, je trouvais ça dommage parce que le personnage, il était beau, de comique. Je me disais, pourquoi est-ce que ça ne s'appelle pas Les Sept Jours de Simone Labrosse? Pourquoi ne pas avoir incarné un personnage de femme comique sur scène, dans le théâtre, justement?
Ben, parlant de la pièce féministe, probablement par excellence au Québec, Les Filles ont soif, c'est une pièce qui est super tragique, mais excessivement drôle
ouais.
aussi dans certains passages qui sont hilarants. Marie se fait battre par son mari. Mais tu sais, tu fais encore raser tour de bras, bon rase, ouais, de folle. Mais c'est méchant, c'est violent, mais en même temps, c'est un peu drôle. Mm-hmm. Il y a quelque chose. Non, mais c'est le mari qui est complètement l'époque. Il y a plein de moments, peut-être justement, Milan, pour reprendre le
oui,
coup,
c'est vrai.
Milan, ouais. comique, il y a cette douleur-là, cette là, mais en même temps, il y a le rire qui est là, un peu comme comic relief.
Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais ça, c'est un de ces cas-là isolés, mais c'était aussi dans la mouvance du féminisme. Ouais. Dans les années 70, c'était les années du féminisme, c'était les années du théâtre. On en a eu beaucoup de choses comme ça. On s'ennuie. Et qu'on s'ennuie donc. Le 8 mars, c'est jeudi. Là, on ne sait pas, il va peut-être se passer quelque chose. En tout cas.
On va conclure là-dessus. Peut-être, je voulais vous remercier pour cette conférence-là. On n'aura certainement pas fait le tour de la question, mais c'est plus qu'un avant-goût. Mais enfin, vous avez plongé dans quelque chose dont il faut parler. J'ai l'impression que je suis très content que vous ayez accepté l'invitation de Salon Double. Donc, je vous remercie d'avoir participé aussi. Bonne humeur. Vous nous avez fait beaucoup rire, moi, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié, en fait, une conférence sur l'humour. Ben, moi, j'ai beaucoup rigolé, j'ai fait des photos des gens qui rigolaient. C'est tout ça sur Facebook, vous irez voir.
Attention à la gorge déployée, là. On va passer pour des cochonnes. Attention.
Ben voilà, merci.
Merci à vous d'avoir été là.